When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous, on est en train d'enregistrer et aujourd'hui je suis avec quelqu'un que je suis depuis longtemps. On était en train de se dire que je t'avais contacté depuis 2021, avant les Jeux je crois, ou peut-être même avant hein, je crois. Donc je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Salut Axel, comment vas-tu ?
Salut Bart, écoute ça va très bien, très content, je t'accueille à la maison, tout va bien. On est comme à la maison, c'est le cas de le dire, donc tout va bien, c'est cool.
Bah écoute, trop bien, ouais, je suis hyper bien reçu et puis comme je te le disais, je suis très heureux d'être là pour trois raisons. Déjà parce qu'effectivement t'habites pas très loin de chez mes parents et du coup j'ai pu passer les voir, ma ville de cœur et ma ville d'enfance, d'adolescence, donc j'ai beaucoup de souvenirs ici tu vois, en venant te voir. Deuxième chose, c'est que effectivement, comme je te disais, je suis passé par le judo. J'ai un papa judoka, ça mouffetait pas, ceinture noire, et fallait pas blaguer. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui nous rapproche. Et enfin, t'as un parcours qui m'a beaucoup inspiré. On a parlé de résilience, d'innovation, de jamais rien lâcher, de chercher la petite différence. Et je sais qu'on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Donc ça va être trop bien.
Ouais, ça va être cool. Moi, je suis super content aussi parce que je te suis depuis un moment et c'est le genre de travail que je trouve hyper inspirant parce qu'on apprend des choses sur les autres athlètes. Des fois, on se croise et on n'a pas le temps d'échanger sur des sujets assez profonds et des fois, on apprend en écoutant les podcasts comme ça et on apprend énormément et j'adore ça.
Bon, bah écoute, merci beaucoup. Ça fait toujours déjà très plaisir quand les invités, les athlètes écoutent, tu vois, même un ou deux épisodes de temps en temps, c'est toujours chouette. Mais avant qu'on parle de tout ça, là, on va parler effectivement, on va parler de ton métier de kiné, on va parler de ton rôle de papa. On va parler de l'esprit du combattant, on va parler de famille, de judoka et aussi d'un sujet un peu moins drôle qu'on abordera peut-être un peu plus à la fin qui est la commotion cérébrale parce que t'en as fait une première en 2021, je crois, c'était tout début de l'année et t'as quand même été très, très bien gâté avec une médaille d'or olympique qu'on peut voir sur l'image avec la une de l'équipe. Mais avant d'aborder tout ça, il y a la question traditionnelle pour tous les invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Je crois que je vais pas être très original, mais mon premier souvenir de sport, ça sera la Coupe du Monde 98. En fait, c'est mon premier souvenir de sport intense où j'ai pu me rendre compte à quel point le sport pouvait apporter des émotions énormes à soi, mais aussi aux autres, et que ça pouvait fédérer. Et je me souviens avoir été sur la place de la mairie de ma ville d'origine à Saint-Dizier et qu'il y avait une ambiance de dingue et que je m'étais dit, j'aimerais bien un jour pouvoir faire ça et qu'avec le titre olympique, C'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est une belle boucle.
Écoute, j'ai pas eu la chance d'être au Trocadéro le jour où vous êtes revenu. J'étais un autre jour, mais c'était un festival où il y avait, tous les jours il y avait des bonnes nouvelles.
Ah, c'était dingue. C'était une ambiance de dingue. C'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Voir le plus beau, ce retour au Trocadéro, les gens étaient complètement hystériques. Nous aussi, on était très très haut. Et du coup, c'est un super souvenir. Et c'est ça le sport, c'est pouvoir le partager quoi, tout simplement. Et c'était vraiment un truc merveilleux.
C'est clair, mais en plus c'était une médaille d'or collective, donc ça faisait, en tout cas pour les supporters, ça fait encore plus de sens parce que ça fait, c'est vraiment l'équipe de France quoi qui gagne. Et...
Ah ouais, c'est vraiment une équipe de France avec une ambiance incroyable, une équipe de France mixte, des hommes, des femmes, tout type de couleurs. Tout type de personnalité, tout type de sexualité, il y a tout dans cette équipe de France. Et en plus, on a véhiculé une émotion de dingue, je crois, on s'en est rendu compte après. Et voilà, nous, on a vécu un truc de dingue à l'intérieur. Et après, c'est quand on est rentré en France, justement, au Trocadéro, qu'on s'est rendu compte de ça, de l'impact, quoi. On a été escortés, je me souviens, on est arrivé dans un van noir avec des gardes du corps. Ça m'est jamais arrivé, ça m'est pas arrivé depuis. Mais l'ambiance était folle.
Ok. Il y a des petites images, des petites anecdotes que tu gardes. Qui vont rester gravés dans ta mémoire de ce moment-là?
De ce moment-là, oui, de ce qui se passe juste avant le premier tour déjà des équipes, où je rentre, je perds mon premier combat, moi. J'avais perdu en individuel aussi, et là, je m'effondre en salle d'échauffement, en me disant, tu vas vivre des jeux horribles, quoi. Il va y avoir une médaille au bout, et tu te seras fait éclater tout le long. Donc ça, c'était une image qui était dure, et au final, c'est ce qui me libère, et c'est ce qui fait que derrière, je vais gagner la demi-finale et la finale, en apportant des points qui sont importants pour l'équipe et qui me libèrent complètement. Et j'ai une façon de combattre qui est complètement autre. Je retrouve ma façon de combattre d'enfance. Mais il y a aussi cette ambiance de malade avant la demi-finale où, en fait, on se rend pas compte, mais on vient empiéter, rentrer dans le cercle des Japonais en salle d'échauffement avec la folie de Teddy et Clarisse qui sont en train de faire des battles de danse. Moi, un peu plus posé, mais qui rentre dans le cercle, c'était un symbole. On aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure.
Ouais, bah vas-y maintenant, si tu peux.
En fait, on est en salle d'échauffement, et du coup, t'as les Japonais qui sont, enfin, salle d'échauffement à la base, la compétition, t'as toutes les équipes qui sont là, donc chacun a son coin, entre guillemets. Et pour la finale, bah, t'as plus que deux coins, quoi. La France et le Japon. Tu as le Japon qui fait, pour s'échauffer, un grand cercle, et en fait, quand c'est comme ça, tout le staff se met autour des athlètes pour les protéger un petit peu. Et nous, à l'inverse, tout le monde est vautré sous le tapis, ça danse, ça rigole. T'arrives sur une finale olympique et ça rigole. Jamais j'aurais pensé ça. Ça fait des battles de danse, ça joue au Uno. Et jamais j'aurais imaginé ça étant gamin. Et moi, qui suis quand même un peu plus sérieux dans mon fonctionnement, je me fais embarquer par cette folie, mais je reprends mon échauffement classique aussi de rebouger dans le vide et tout. Et je me rends pas compte qu'avec cette folie, bah, en fait, je suis dans une autre ambiance et je viens, alors que j'ai beaucoup de respect pour les Japonais, je viens casser ce cercle, en fait. Je viens en courant casser parce que j'ai la musique sur les oreilles et je suis en train de danser, du coup, et tac, je traverse ce cercle une fois, deux fois. Et en fait, je me suis rendu compte après, c'est les entraîneurs qui m'ont dit, mais en fait, ça a perturbé tout ça. On était plusieurs à le faire et en fait, on est rentré dans leur espace. On sait que l'espace des Japonais est important vu qu'ils saluent à distance, ils ont un espace, chacun a son espace. Et donc ce moment était dingue aussi. Ce moment était assez dingue à posteriori quand on y réfléchit.
Ok, bon ben je vous imagine très bien là sur le tatami.
je t'ai décrit le truc là.
En train de faire un peu les fous et avec l'ambiance japonaise qui devait détonner.
Ouais, c'est ça. Et du coup, le responsable de l'équipe les a essayé de les rapporter, les rassembler pour essayer de les remettre dans la compétition. Et en fait, il y a une partie qui s'est jouée là, c'est-à-dire qu'on les a déstructurés.
Ouais, ça a été toute la compétition comme ça, tu vois, avec justement toutes vos personnalités un peu différentes, et c'est ça qui rend cette équipe si belle, je trouve, de sentir qu'il y a vraiment tout type de personnalités. Toute la compétition, c'était comme ça, un peu folklorique, un peu foufou, et puis et aussi quand on arrive sur le tatami.
Non, c'était comme ça tout le long. C'était comme ça tout le long. Tu vois, dès le matin, moi, j'étais gêné par une pubalgie, donc j'ai besoin d'un plus gros échauffement. Je suis parti plus tôt. Les autres ont respecté ça, que je sois pas avec le groupe. Et à l'inverse, après, eux sont arrivés en dansant avec la musique et tout ça. Et chacun a respecté les besoins de l'autre. C'est-à-dire que moi, je m'inspirais de leur folie. Et donc, pour être plus détendu et tout ça. Et eux aussi, respectaient mon besoin de m'échauffer un peu plus. Et tout le long, ça a été comme ça. Chacun avait des besoins différents et on a respecté les besoins de chacun. Tout en ayant une ambiance collective qui était une super dynamique. Mais en respectant les besoins de chacun. J'allais pas imposer une rigueur à certains qui les auraient saoulés et barbés. Et eux n'avaient pas m'imposer une folie totale où j'aurais pas été bon. On savait que chacun, c'est une somme d'individualité qui visait ensemble, on a besoin d'être bons tous ensemble et de se sentir à l'aise pour combattre comme il fallait, quoi.
Ok, bon bah écoute, c'est très bien dit, je trouve. C'est vraiment,
vous avez maximisé la somme des individus, en fait, j'ai l'impression. Et une fois sur le Trocadéro, une fois à Paris, c'est quoi les gros moments de l'IS ou, je sais pas, est-ce qu'il y a une image, toi, qui t'a touché particulièrement?
Il y en a deux. Il y a la première quand on est à l'hôtel, qu'on arrive à peine de l'aéroport, et qu'en fait, j'ai mon entraîneur de club, Stéphane Duc, et aussi ma famille qui arrive à l'hôtel. C'est la première fois que je les vois, parce qu'à cause du Covid, ils n'étaient pas venus.
C'est ça, quand même. Il faut le dire aussi. Ouais. C'est que vous n'avez pas eu les moments un peu festifs sur place, quoi, ou un peu moins, quoi.
Du coup, on les a vécu encore plus fort entre nous, parce que du coup, on les aurait peut-être vécu plus facilement avec nos amis, nos familles. Je sais que moi, à la base, j'avais 20-30 personnes qui venaient me voir au jeu, donc j'aurais passé peut-être plus de temps avec eux. Non, nous les avons vécu entre nous, on a vécu une énergie de dingue entre nous, l'équipe. Et après, quand on arrive en France, on a vécu avec les autres. Et donc ça, c'était dingue. Voilà, mettre la médaille autour du cou de, je me souviens, de ma femme, puis de mon entraîneur. Ils sont arrivés tous un par un dans ma chambre d'hôtel en me faisant la surprise. J'avais pas dormi de la nuit, j'étais fracasse avec le décalage. Mais ça a été, c'était dingue de voir ma femme, mon entraîneur, puis mon père, ma mère, ma sœur qui était revenue de Bretagne. Ils sont chacun relayés dans ma chambre d'hôtel et c'était juste magique. Ça, c'était un moment entre nous, puis avec un petit resto. Et puis après, au Trocadéro, là, la folie totale, quoi. C'était dingue. Et retrouver notre folie de groupe, où on s'était chacun un petit peu extirpé de notre côté. Et là, refaire n'importe quoi, tu faisais n'importe quoi, le public te suivait. On a même fait un paquito sur la scène. Les gens qui ne savent pas, voilà, c'est plutôt une ambiance sud-ouest, ambiance bon enfant. Et on pouvait faire ce qu'on voulait, tout le monde était en délire. C'était génial.
Ok. Bon, bah, en tout cas, pour ceux qui ont eu un peu la flemme ou qui n'ont pas eu la chance de venir au Troca, on espère que vous viendrez la prochaine fois parce qu'il ne faut pas louper ça. Dans quel état de confiance tu avais abordé ces jeux? C'était premier jeu, si je me permets. À ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, tu as 34 ans. Donc, c'est quelque chose quand même parce que, en plus, plusieurs fois, tu as été aux portes de la sélection et ça ne s'est pas fait. Toi, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? En arrivant à Tokyo,
comme tu dis, c'est mes premiers jeux. Je suis en course pour 2012. Je suis qualifié pour 2012 et 2016. À chaque fois, la fédération avait choisi un autre concurrent. On a le droit à un seul représentant par catégorie. Donc là, il y a forcément beaucoup d'envie. J'arrive avec une confiance un peu altérée, j'ai envie de te dire, parce que le Covid m'a fait du mal. J'arrivais pour 2020 avec une confiance de dingue. Médaillé au championnat du monde 2018, 2019. Au tournoi de Paris 2020, donc à 6 mois des Jeux, je bats le champion d'Europe, puis le champion du monde sur le tournoi de Paris. Donc là, je me sentais vraiment en pleine possession de mes moyens. Et ensuite, le report a été dur à encaisser. Et surtout, j'ai une pub algique qui m'a embêté, qui a fait que j'ai dû faire une rééducation de 5 mois après le confinement.
Tu peux expliquer une pubalgie pour les
nouveaux? Pubalgie, c'est une. Alors, ça rejoint. Alors, je suis kiné, donc j'ai essayé de simplifier les choses. C'est une inflammation de la zone au niveau du pubis, mais qui peut avoir différentes formes. Il y a 5 formes différentes, j'en avais 4. Donc, voilà. J'avais une grosse inflammation au niveau psoas, mais surtout une désinsertion des deux adducteurs au début, que j'ai déchiré de plus en plus au fur et à mesure de l'année. Donc, j'avais à droite jusqu'à 2,5 cm d'adducteur désinséré. 3 mois avant les Jeux, je désinsère le côté gauche et on me dit soit tu fais pas les Jeux, soit tu y vas sans avoir fait de combat avant. Pendant 2 mois et demi, tu arrives et tu tentes tout sur le moment. Je leur ai dit, ça c'est bien pour ceux qui participent et qui c'est tout. Moi, j'y vais pas pour participer, j'y vais pour aller chercher une médaille. Je suis passé outre le avis médical et j'ai décidé de me préparer. Mais même avant ça, depuis le report des Jeux, ça a été une vraie galère. Je crois que sur 1 an et demi,
toi,
j'ai dû faire 3-4 mois de judo seulement sur 1 an et demi. Ouais, j'ai enchaîné les pépins physiques. Voilà, c'est mon histoire. C'est malheureusement, ça fait partie de mon parcours. C'est ce qui m'a construit aussi, ce qui m'a permis de voir les choses différemment, quoi.
Ouais, bien sûr. Alors, je suis pas un expert non plus, mais la blessure fait partie du chemin de l'athlète, quoi qu'il arrive. Certains touchent du bois, mais ça arrive beaucoup moins, d'autres plus. Mais en tout cas, c'est un passage souvent inévitable. Et c'est comment on rebondit qui fait vraiment la différence. Parce qu'on voit beaucoup qui s'arrêtent aussi après un pépin, qui n'arrivent pas à revenir. Et toi, c'était... Je ne le prends pas mal, mais tu vois, je pense que peu aurait, enfin c'est mon avis, peut-être peu aurait mis une pièce, tu vois, sur Axel à 3 mois des Jeux, tu vois.
À 20 ans, certains auraient mis une pièce sur moi. Après, dans ma carrière, non, et encore moins à 3 mois des Jeux, effectivement. Il y avait vraiment des doutes. Il y avait même des doutes que je puisse pas combattre. Donc ça, c'est sûr. Pour revenir sur la blessure, oui, ça fait partie de la carrière d'un sportif. Encore plus dans un sport traumatisant comme le judo, on remplit malheureusement pas mal le médical de l'INSEP parce que c'est un sport de combat, tout simplement. C'est un sport où on s'entraîne fort, même si beaucoup de sports s'entraînent fort, mais c'est vrai que c'est un sport de combat, donc traumatisant. Pour moi, tu peux revenir de toute blessure. C'est vraiment mon credo. La preuve, j'ai malheureusement, après, c'est combien, 17 ans de haut niveau peut-être, j'en suis. Plus une articulation qui est saine, quand tu passes des chevilles, genoux, hanches et le dos, voilà. Mais en fait, avec du travail, tu peux revenir. Du travail, de la patience, de l'abnégation, tu peux revenir de toute blessure en étant intelligent, en faisant de la prévention, en faisant un certain renforcement de certaines parties. Et ton corps s'habitue, le corps est assez magique. Si on prend un peu les mots d'un majeur mouvement que je connais bien, le corps est assez magique et il s'habitue à tout, en fait. Et il s'adapte. Pour moi, tu peux revenir de tout, quoi. C'est pas sans conséquence, ça pèse aussi sur le moral, c'est sûr, mais c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de durer, parce que ça m'a obligé de travailler d'autres choses.
Ouais, bah écoute, on va en reparler. En plus, effectivement, tu es kiné à côté de ton statut d'athlète professionnel, donc et en plus tu le fais pas en chômant, je le sais, donc j'imagine que ça t'a beaucoup aidé. Si on peut terminer un petit peu sur le passage un peu des Jeux Olympiques, ouais. Tu dis qu'il n'y avait pas la pleine confiance en toi, t'es quand même sélectionné, donc tu t'y vas. Est-ce que c'est quoi la petite voix intérieure? C'est quoi la petite flamme que t'as en faisant ta valise justement à Paris? Est-ce que, je sais pas, il y a un message qui tourne en boucle? Est-ce qu'il y a une envie qui revient? Est-ce qu'il y a un objectif qui est clair et précis? T'es dans quel état d'esprit?
L'envie claire et précise, c'était d'aller chercher 2 médailles. Et le message était, profites-en, enfin, à 34 ans. Profite de l'aventure des Jeux. À 34 ans, tu te bats pour ça depuis. On me parlait déjà des Jeux de 2008, je me souviens, en sortant du monde junior, on m'en parlait. Je suis passé à côté. Enfin, tu vas les vivre. Certes, ils seront différents, il n'y aura pas de public, il n'y aura pas tout ça. Mais enfin, tu atteins ce que tu veux. Et c'est le moment de tout lâcher, quoi. C'est le moment d'aller chercher ce que tu cherches. Le enfin aussi, parce que l'Olympiade a duré 5 ans au lieu de 4 ans. Lâche tout. Et voilà, tu as travaillé pour ça. Tu es passé au-dessus de certaines étapes très, très difficiles, comme cette grosse pubalgie qui me demandait un renforcement la veille de chaque séance, 40 minutes d'échauffement et 1 heure de soins pour chaque séance judo pendant 1 an et demi. Donc c'était très lourd. Voilà, le dimanche soir, dans le salon où tu es là, j'étais obligé de faire ma petite séance de renfo, d'étirement de renfo pour pouvoir attaquer le lundi matin ma semaine. Sinon, j'étais incapable, il y avait trop de douleur. Je prenais des coups de poignard pendant 40 minutes à échauffement avant de pouvoir attaquer. Donc chaque séance de judo était calculée. Et sur 1 an et demi, il n'y en a que 3 ou 4 mois de judo. Donc voilà, c'était particulier. Mais qu'une envie, c'était clairement d'aller chercher les médailles, quoi. En individu et en équipe. Je savais que j'étais aussi sur les équipes, mais clairement, en individuel, j'avais déjà battu tous ceux de ma catégorie, tous les meilleurs 4 heures de ma catégorie, sur le podium 2 fois. On n'est que 2 sur un pied d'avoir été sur le podium des championnats du monde 2 fois dans ma catégorie. Il y a un gros turnover, donc je savais que j'avais des grosses chances, mais que ça allait être une guerre, quoi, parce que c'est une catégorie de dingue super dense. Et ça m'excitait, et je savais aussi qu'il y avait 2 choses. Je m'étais vraiment préparé pour un deuxième événement qui allait enchaîner après les individuels. Contrairement au championnat du monde avant, c'est pas dans la culture du judo. D'habitude, tu fais un indiv et puis après, tu fais ce qui reste. Non, là, on s'était vraiment conditionné avec les entraîneurs, avec Guillaume Chen, mon collègue d'équipe, à se dire, voilà, faudra être capable d'enchaîner parce que la deuxième, elle sera aussi importante.
Ouais. Est-ce que tu fais combien de combats, du coup, sur les 2 semaines des Jeux?
En 3 jours, j'en fais 5, 6. Donc c'est pas si dingue, mais ouais, il faut imaginer que quand tu fais deuxième tour en individuel, il y a ton monde qui s'effondre, une déception de dingue. Il n'y a plus aucune émotion en moi. J'ai même pas réussi à pleurer, je pleure seulement. Et les émotions sortent seulement après le premier combat perdu aux équipes. Je suis complètement vide, c'est bizarre. Un peu comme un truc bizarre. Seulement, faut repartir. Faut repartir au combat pour les équipes. Et l'équipe a besoin de moi. J'ai besoin d'eux, et c'est là où on se sert l'un et l'autre. Mais c'est super dur. Faut refaire une perte de poids. Que les gens ne s'en rendent pas compte. Faut être capable donc du coup de se remobiliser. Tu dors pas pendant les 2 nuits qui suivent. On va pas se mentir. Hein. Tu viens de louper ton objectif pour lequel tu t'entraînes depuis 5 ans, voire même pour moi 15 ans, vu que c'était mes premiers jeux. Donc tu tournes en boucle. Et il faut être capable de se remobiliser pour combattre.
C'est quoi le déclic du coup?
Le déclic, il arrive seulement après le premier combat perdu. Il arrive en salle d'échauffement. Quand je ressors de là et je me dis, mais t'es complètement à côté de la plaque, mon pauvre gars, ça va pas, là, t'es en train de te faire éclater. J'étais trop concentré, j'ai à vouloir trop bien faire, trop investi, c'est souvent mon défaut. Et donc du coup, il fallait une sorte de lâcher prise. Donc du coup, on en parle avec mon entraîneur, on en parle avec ma psychologue qui était sur place, Myriam Salmi. C'est 2 personnes, Christophe Massina, mon entraîneur, et Myriam Salmi. Je l'appelle parce qu'elle était au village en train de s'occuper d'autres athlètes. Je l'appelle, je lui dis, Myriam, ça va pas du tout, c'est la merde. Je viens de me faire éclater Et je vois bien que je suis pas, quoi. Pareil, on en parle avec Christophe et ils me disent, ben, si ça va pas, faut changer quelque chose. Switch complètement. Vas-y, amuse-toi. Vas-y, t'essaies de trop bien faire, amuse-toi. Rigole. Et là, je commence à voir le smile qui monte. Et je commence à me mettre dans la folie un peu du groupe aussi, un peu plus. Et je dis, vas-y, ben, quitte, t'attends ça depuis je sais pas combien d'années, vas-y, amuse-toi. Lâche-toi. Le combat d'après, en demi-finale, je reprends Vantien, le Hollandais, qui m'a battu en individuel. Et le combat sur une erreur à la fin bascule de son côté, mais je l'avais pas. C'était un combat égal, mais c'était un peu un combat de. J'appelle ça un combat de PlayStation, c'est-à-dire qu'il n'y avait que le haut qui se passait. Et en fait, tu ne voyais pas comment ça allait évoluer, j'étais trop concentré que sur une chose. Et là, je lui ai mis de la folie partout. C'est-à-dire que je l'ai mis en mouvement, je lui ai mis des coups de patte en bas, je lui ai donné plein d'informations partout. Et j'étais un peu comme un gamin qu'on venait de sortir de sa case, en fait. Enfin libéré, quoi. Et là, du coup, c'est plus du tout le même match, quoi. Je gagne sur un impact, je le fais tomber, clairement. Et après, même quand je le fais tomber, après, je suis encore relou à prendre parce que je bouge partout et que je suis dans ma folie et c'est le style de judo que j'avais appris quand j'étais gamin, quoi.
Ok. C'est à ça que tu penses, ouais, justement, l'enfant, le plaisir du combat quand t'étais enfant à ce moment-là.
Ouais. Je me dis, vas-y, amuse-toi. Et t'as voulu bien faire, ça marche pas. T'as voulu être sérieux, t'as voulu être rigoureux, tu te fais éclater. T'avais l'impression que c'était bien. Bon, bah là, faut changer quelque chose. Je dis, amuse-toi, vas-y. Et je me garde cette idée-là. Et je me force. Et du coup, quand tu te dis, amuse-toi sur un moment comme ça, t'as le sourire qui monte. C'est bizarre. T'es sur un truc où tu veux cadrer, tu veux bien faire, t'attends ça depuis longtemps. Et dans ma tête, je m'oblige à me dire amuse-toi. Et du coup, c'est cool. Mets de la folie, mets-le en mouvement.
Mais c'est marrant parce que t'as souvent ça avec les personnalités justement qui sont très carrées. Pas forcément dans le contrôle, tu vois, j'irai pas jusque-là, mais ça donne une image. Parce que voilà, on connaît tous les critères de la performance, on sait ce qu'on doit faire, on a le plan et tout. Et qu'en fait, on est tellement dans le process qu'en fait, vouloir remettre une couche pour accentuer chaque critère, tu vois, chaque point, et ben en fait ça marche plus. Et en fait, c'est ce qu'il faut, c'est lâcher, parce que de toute façon, tout le process, il est en automatique. Tout ça, c'est en automatique, et ce qu'il faut, c'est juste retrouver un peu la flamme intérieure, quoi, qui existe.
Le trop est l'ennemi du bien, encore plus quand tu veux contrôler. Et un adversaire, moi, je peux pas le contrôler. Enfin, c'est une personne. Et comme tu dis, il faut être dans l'instant, en fait. Dans le combat, pour moi, maintenant, la priorité, c'est d'être dans l'instant, d'être dans une sorte de méditation de pleine conscience. Si t'es dans la réflexion, t'as déjà un temps de retard par rapport à l'autre. Donc, en fait, si mon amené pour performer, elle est dans l'instant pour ne pas avoir à réfléchir. Tu t'entraînes depuis des années, en fait. Ton corps, il sait faire. Si tu le brides, il ne pourra pas s'exprimer. Mais par contre, laisse faire. T'as tout fait pour, t'as fait des heures et des heures d'entraînement pour que tout soit automatique. Ben, laisse les choses automatiques sortir. Si tu les retiens et que t'es dans la réflexion, c'est trop tard. Mais c'est super dur à faire. Et c'est ce qui est passionnant. Moi, c'est ce qui m'excite et ce qui me plaît maintenant à plus de 30 ans de continuer de travailler sur ces choses-là, quoi. Voilà, c'est plus que l'aspect physique, l'aspect technique. C'est travailler comment tu arrives à contrôler ma tête pour justement la mettre dans l'instant présent et complètement lâcher. Et ce moment de plénitude, il est magnifique.
Comment tu fais du coup aujourd'hui ?
Comment je fais aujourd'hui ? Bah, en fait, du coup, c'est vraiment. Alors, t'as des périodes d'activation, mais c'est vraiment travail de respiration et pour réussir à évacuer toute pensée. Voilà, avant j'arrivais, je me souviens, mon premier championnat d'Europe senior en 2009, je bats le champion olympique en titre. Sa première défaite après les Jeux, je le bats, je connaissais toutes ces séquences. Je savais exactement à quelle minute, à 1:30 il avait une petite passage à vide, je savais quand il mettait la main là, il était tout le temps au revers, quand il la mettait en haut, il allait venir m'attaquer dans ma jambe gauche. Je connaissais tout, et donc du coup j'anticipais tout, je le bats comme ça, mais c'est pas durable. Parce que quand je prenais quelqu'un que je connaissais pas, s'il y avait le moindre imprévu, je perdais. Donc j'ai fait une partie de ma carrière comme ça, mais sauf qu'en fait, ça peut pas durer. Parce que sur quelqu'un d'un niveau en dessous, quelqu'un que tu découvres, ou juste quand quelqu'un change son schéma, ben en fait, t'es foutu. Donc il a fallu s'adapter pour durer et pour performer plus haut, pour être capable de s'adapter aux imprévus. Ben, je me suis rendu compte qu'il fallait être en total lâcher prise. Et c'est ce qui change tout, quoi.
Ouais, tu fais bien de le dire, tu vois. Et tu vois, j'avais mon entraîneur, moi, au tennis, qui me disait souvent qui se prend la tête à l'entraînement doit rigoler en match, et qui rigole à l'entraînement va se prendre la tête en match. Moi, j'aimais beaucoup cette métaphore parce que c'était très dur à faire pour moi, un peu comme toi, justement. Tu te mets tellement la pression dans l'année à l'entraînement, tu sais exactement ce que tu dois faire et tout. Et en fait, le jour J, le jour où il faut tout donner, en fait, c'est l'inverse que tu dois faire, faut lâcher prise. Et c'est un vrai, vrai travail, quoi.
Et c'est un vrai travail. Et c'est super dur. Et réussir à le faire, c'est énorme. Bah, c'est pour ça qu'on dit dans une carrière, t'as une, deux, trois journées de flow. Le flow, c'est vraiment ça. T'as pas besoin de réfléchir. Ça découle. Voilà. Et c'est magnifique quand ça arrive. Mais c'est quand t'as réussi à lâcher, quoi. Quand tu veux contrôler, c'est mort. Mais je crois que dans la vie, c'est pareil. Hein.
Ouais, bien sûr. c'était quand tes jours de flow, justement?
Alors, moi, je pense que j'en ai eu deux. Ah, y en a un, c'est con, c'était sur une petite Coupe d'Europe pourrie en Serbie. Moi, j'ai mis 5 secondes à tout le monde. Je me souviens ce jour-là, t'as des coachs qui sont venus me voir qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? J'étais redescendu un peu d'un cran, mais je pouvais faire ce que je voulais, ça marchait. Et surtout, le gros jour de flow, c'est 2018, quand je fais ma première médaille aux championnats du monde, où ce jour-là, j'avais jamais eu une médaille aux championnats du monde, et j'explose complètement un tableau de dingue, et je fais tomber sur 6 techniques différentes. Je fais troisième parce qu'en demi-finale, je critique jamais les arbitres, mais là, il y a une action qui a été très, très litigieuse. On
j'ai
donne pas
retrouvé le combat,
je
l'ai vu, mais j'ai pas retrouvé le combat. Ouais.
J'envoie un sutemi, enfin, un technique de sacrifice, Yokoto Monage, qui est la planche japonaise, parce que tout le monde connaît sur ce nom-là. Mon adversaire crie à ce moment-là, il crie juste, et ils annoncent Ippon pour lui. Alors que c'est moi qui décide de me jeter sur le dos. Incompréhension totale, mais s'il n'y a pas ça, en fait, je pense que ce jour-là, je suis champion du monde, quoi. Je marchais sur l'eau, clairement. J'ai pris le Coréen qui était champion du monde au deuxième tour, qui était sur le podium des Jeux ou des champions du monde depuis 5 ans consécutifs. J'y mets au hasard et Ippon, c'est-à-dire que je le fais tomber 2 fois, alors que je ne l'avais jamais battu. Je marche sur l'eau, je bats le champion d'Europe moins 23 au premier tour. Je bats le Russe qui était vice-champion d'Europe au troisième tour. J'avais un tirage dingue. Et en fait,
tu fais un allemand sur la troisième.
Et la place, ouais, je prends l'allemand. Triple, qui est vice-champion olympique au final à Tokyo. Et ouais, pareil, bah, je suis mené. Et là, pareil, je retombe dans mes travers. Parce que du coup, il y a une pause. Je retombe dans mes travers de vouloir contrôler. Parce que je me dis, oh, ça y est, t'es en place de 3 et c'est la médaille ou quoi. Et début du combat, j'y suis pas. Et après, dans le combat, j'arrive à switcher parce que je suis mené, je suis dos au mur. Et donc, du coup, j'ai plus le choix que de repartir dans l'instant et de tout lâcher, quoi.
Ouais, et on sent, mais il y a quelques images, je mettrai un lien dans la description du podcast, on sent que la joie, elle est intense, quoi.
Il y a des émotions de dingue, là. Parce que c'est... Bah, en fait, tu travailles pour ça. J'avais été vice-champion d'Europe un an avant, mais vice-champion d'Europe, c'est pas pareil. Médaille mondiale, tu rentres dans le judo français, tu rentres dans une autre dimension, et c'est un soulagement, quoi. Tu fais, waouh, ouais, enfin, travailler pendant tant d'années pour ça, et je l'ai à 31 ans, quoi. Comme par hasard, 3 mois après la naissance de mon fils, qui m'a, voilà, c'est ce qui m'a aidé à relativiser. C'était un vrai déclic, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais justement, tu vois, comme on vient de le dire, t'as connu les plus beaux moments, on va dire, ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé avant?
Allons souvent de croix. Des galères, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais, j'aurais pu avoir un parcours qui explose très tôt. Mais d'ailleurs, je suis pas du monde junior. Bah, je suis loin. Bah,
c'est ce qu'on lit, tu vois, c'est ce qu'on lit sur toi. On lit Génération Dorée, on lit Le Futur Espoir, dans une des catégories reines. Hein, en plus, j'ai envie que tu m'expliques quand même comment t'as le changement de catégorie que t'as opéré, pourquoi et tout. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Comment ça se passe, du coup, tout ça?
Donc, en fait, je suis médaillé mondial en 2006, donc avec la belle génération dorée de Teddy Riner, Cyril Marais, Hugo Legrand, Michael Rémillien. On est tous médaillés, c'est incroyable. Je deviens en plus, hormis Teddy, le premier de la génération à être titulaire en senior 2009, parce que je fais 3e au tournoi de Paris. Donc là, je suis sur une voie royale. Hein. À 23 ans, tout déraille un petit peu. Je me dis pourquoi je suis là. C'est vrai que j'en ai mal à rarement parler de ça, mais il y a un moment de pourquoi je suis là, est-ce que j'ai vraiment choisi ça. Une fatigue globale, j'arrête tout pendant 9 mois.
C'est venu d'où ce questionnement?
Je crois que de l'âge, et puis de dire bah, en fait. Je viens d'une famille judoka, je suis arrivé dans le judo. Je me suis dit, bah oui, je pars en sport-études, pourquoi pas essayer? À la base, je pars en sport-études pour faire une anecdote à raconter à mes petits-enfants plus tard. je me crois pas du tout capable de performer au niveau, j'ai pas les qualités physiques ni surtout mentales.
Malgré papa?
Ouais. Ah non, mais je me qualifie même pas au championnat de France en KD1, KD première année, KD deuxième année, je fais premier tour au championnat de France, je me fais complètement éclater. Donc j'ai pas du tout les qualités requises à la base, alors que j'étais fan de sport. J'aurais dévoré ton podcast à l'époque, je connaissais tout. Non, je me vois pas du tout, mais je me dis bon, vas-y, 3 mois, t'auras un truc à raconter en famille plus tard, sur un pas de famille avec tes petits-enfants. Moi j'ai fait du sport de haut niveau, je pensais dire ça. Et puis au final, j'ai 2 potes, j'y vais, c'est dur. Parce que je me fais complètement éclater sur le tapis. Et puis j'ai des potes qui me tendent la main et qui me disent allez, accroche-toi, c'est une belle aventure humaine. Et j'y vais, parce qu'à la Toussaint, je voulais repartir. C'est comme ça que je rentre dans le sport de haut niveau. Et puis, ça s'enchaîne vite, en fait. Je suis un gros besogneux, donc je rattrape des gens grâce à mon travail. Je finis par être champion de France junior, médaillé au championnat du monde junior. Et puis après, en senior, ça s'enchaîne.
À ce moment-là, tu commences à croire à une carrière, non, quand même.
Tu commences à y croire, et c'est même évident. À ce moment-là, c'est évident que bah, tu vas être médaillé olympique, que tu vas tout casser. C'est, enfin, franchement, c'est simple. Je suis celui qui s'entraîne le plus, donc forcément, je vais faire une médaille. Non, c'est pas ça, en fait. Et puis, du coup, j'explose un petit peu. Ça a été un peu compliqué, trop de choses d'un coup. Les études de kiné à gérer au niveau, pas l'impression d'avoir profité de certaines choses. Donc, j'explose en plein vol. Et au final, c'est une des meilleures choses, quoi, parce que du coup, j'ai pu prendre le temps de me reconstruire et de savoir pourquoi j'aimais aller au niveau. Et ça a vraiment été un choix personnel et pas un choix qui était imposé par un système global qui t'emmène vers ça. Il y a plusieurs sportifs qui en parlent. Et donc du coup, après, voilà, j'y suis revenu parce que le judo me manquait, les émotions du haut niveau me manquaient, qu'il y avait aussi un goût d'inachevé et puis que je voulais aller au bout, quoi. Et ça a été long.
Je connaissais pas ça sur ton parcours, tu vois, tu me l'apprends. Forcément, j'ai envie de creuser un petit peu avec toi. Tu fais quoi pendant ces 9 mois ? Où tu fais pas de judo?
Je dégoupille, je profite de la vie et puis je coupe complètement du judo. J'avais pris du poids de ouf. Voilà.
Ah, en fait, le changement de catégorie, il était beaucoup plus facile.
Il débute là, ouais. J'ai fait la fête. J'ai fait beaucoup la fête, sauf que je ne m'autorisais pas à cause du niveau. Et puis, à un moment, tu te rends compte que faire la fête, c'est bien, mais au bout de quelques temps, bah, en fait, c'est toujours pareil, quoi. Donc, alors qu'avec le haut niveau, c'est complètement différent, quoi.
Puis, il n'y a pas toujours du sens, quoi. Pourquoi tu fais le choix de continuer les études de kiné malgré l'INSEP, malgré des médailles mondiales aux juniors, malgré des premières sélections aussi?
Ouais, j'avais fait chemin d'Europe, chemin du monde senior. Bon, en fait, tout simplement parce que mes parents m'ont toujours dit c'est bien beau le haut niveau, surtout ma mère m'a toujours dit mais ça te fera pas vivre, c'est pas sûr, une blessure ça peut arriver vite, et j'en ai eu plein, et surtout ben voilà, faut assurer la reconversion, et elle avait raison, et puis je savais aussi qu'il y avait un équilibre à avoir entre les deux. Donc du coup je continue la kiné malgré toutes les difficultés, quoi. Je sais qu'il faut que ben le judo peut te faire vivre un peu, voilà, et j'avais pas envie d'être entraîneur non plus, de faire que ça. J'avais vécu en tant qu'enfant par rapport à mon père, je connais les côtés néfastes que ça peut avoir, et j'ai pas envie de le faire subir après à ma famille. Donc il y a des très très bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés, et je voulais pas reproduire ce modèle là donc je voulais pouvoir avoir un travail à côté du judo, quoi.
C'est quoi les mauvais côtés?
Les mauvais côtés, tu travailles à l'inverse de tout le monde. Donc quand je rentrais de l'école, mon père était là pour passer le goûter avec nous, mais ensuite il partait à l'entraînement. Et puis les week-ends, il était parti aussi en compète avec tout le monde. Et les vacances, il est en stage. Donc en fait, voilà, t'es un peu à l'inverse de tout le monde. Donc j'avais envie de moi plus tard, être plus présent pour mes enfants, quoi.
Ouais. Il a les 7 dan, ton père, c'est ça?
Ouais, mon père est 7e dan. Ouais, au gradé, qui a formé pas mal de monde dans le judo français après moi, quoi.
Ouais. Est-ce que ça met une pression particulière? Peut-être pas quand t'es jeune, parce que quand t'es jeune, tu te poses peut-être un peu moins les questions. Il y a le plaisir, il y a les copains. Tu progresses tout le temps aussi. Mais est-ce que ça met une pression au moment où, bah justement à ce moment-là, tu vois, au moment où tu te poses des questions, tu progresses un peu moins parce que ça devient sérieux, parce que lui, il connaît un peu tout, tu vois. Est-ce que justement, tout le revers de ça, ça n'arrive pas à ce moment-là?
Bah si, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y avait le revers avant, parce que quand t'es le fils du prof, t'es plus facilement au coin, parce qu'il te punit plus facilement quand t'es un enfant. Mais
c'est vrai que souvent, ça, les sûr. Gens pensent que t'es le chouchou, mais en non, fait...
Non. Non, ça dépend des profs, mais plus souvent, c'est l'inverse. Mais il y a aussi le côté... bien sûr, le revers arrive à ce moment-là, parce que tu t'es construit. Quand je te dis, je me pose la question, si c'est moi qui ai choisi d'être dans ce milieu, bah, c'est aussi pour ça. Donc forcément, c'est le revers arrive à ce moment-là. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain.
Ok. Me permets tout de suite, parce que sinon je vais oublier. Je vois la bouteille de champagne qui est à côté de nous. Et il y a marqué 29 juin 2019, c'est la date de naissance de ton fils.
Non, c'est la date du baptême.
Pour la petite info, je suis né le 29 juin 1990. Et du coup, c'est le jour du lancement du podcast.
Ah, excellent, excellent.
Donc, pendant que tu étais à l'église, j'étais en train de cliquer sur publier mon tout premier épisode avec Arthur Guérin-Boé. Que d'émotion, dis donc. Je savais qu'il allait se passer des choses. Et à l'inverse, tu vois, justement, sur ton papa, à quel point il t'aide justement dans ce moment un peu difficile, parce que des athlètes, il en a vu, il sait que aussi, bah, tu vois, entre 20 et 23 ans, on va pas se mentir, il y en a quand même énormément qui lâchent à cet âge-là. Toi, t'es vraiment, je vais pas dire t'es au port du haut niveau, en fait, non, t'as mis le pied dans la porte, t'as la clé dans la serrure, donc c'est tout. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là, tu vois, justement, ta famille, tes proches?
Pour eux, ça avait été dur aussi, parce que lui, il pensait que voilà, c'était fait et tout ça. Mon père, il m'a apporté surtout une vision globale. Toi, par exemple, quand je suis arrivé sur Paris, il m'a aidé pour se dire de pas aller dans certains clubs, un gros club parisien qui me faisait de l'œil, et dire attention, il y a le côté pervers de ça aussi, où tu vas bien gagner ta vie, mais Tu n'as pas forcément une vision du haut niveau et c'est ce qui aide, je pense, quand tu as un papa ou un maman ou quelqu'un de la famille qui a fait du haut niveau, qui a une vision globale du côté pervers. J'ai certains potes qui sont partis dans des gros clubs, avaient des grosses propositions à certains moments et du coup, je sais que je m'y serais perdu parce que tu gagnes bien ta vie, que tu vas la dépenser en boîte de nuit, certains, trop tôt. Et j'en ai, malheureusement, j'ai perdu plein de potes comme ça où tu vas dans un club qui va te proposer beaucoup financièrement mais qui n'a pas un staff autour. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait aussi des contacts aussi dans le niveau et qui pouvait me dire ben va peut-être plus travailler avec cet entraîneur là, il sera plus bénéfique et plus dans ton intérêt que dans son intérêt à lui, parce que malheureusement il y a aussi ça dans le haut niveau.
Ça devient un business en fait,
ouais,
pour les autres, pour toi, mais aussi pour les autres.
Un business aussi, parce qu'il y a aussi de l'ego. Un entraîneur, des fois, va te presser pour avoir un résultat tout de suite parce qu'il veut montrer son travail à lui. Mais sauf qu'il y a une construction. Un athlète, pour moi, il y a une construction sur le long terme. Et si tu l'emmènes, si tu veux avoir un résultat tout de suite dans l'année, bah, des fois, c'est néfaste pour le long terme. Et il faut avoir. C'est vrai que ça a été le point fort de mon père d'avoir cette vision à hauteur, avec de la hauteur et d'aller sur le long terme avec une construction sur le long terme. J'ai été pendant 7 ans sur Paris sans club. Donc, du coup, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ça m'a obligé à travailler avec moi-même et apprendre de plusieurs personnes, de me construire avec plusieurs personnes. Ce qui était très, très enrichissant. Je suis juste la mosaïque de plusieurs personnes, de plusieurs entraîneurs que j'ai croisés au fur et à mesure de ma carrière.
C'est très bien dit. Je suis la mosaïque des personnes que j'ai rencontrées. Écoute, je te la pique. Ouais. Un copyright.
C'est quoi ce lanceur? Je viens de l'en trouver. Mais c'est clair. Enfin, voilà, mon style de jeu, et maintenant, quand j'interviens, des fois, je fais quelques stages dans un certain club. Bah, il y a un petit peu de mon entraîneur de peau, Sébastien Girardet, Yacine Douma. Il y a un petit peu de Frédéric de Montfaucon, qui était mon idole quand j'étais gamin et qui m'a entraîné. Il y a un petit peu d'Arsène Liandi, qui sont des personnes, des experts techniques que j'ai eus. Un peu de Stéphane Auduc, qui est mon entraîneur de club, un petit peu de mon entraîneur fédéral, Christophe Massina, et je suis juste le mélange de tout ça, en fait. J'ai pris un petit peu de chacun, et après, c'est Axel Clerget qui s'exprime, mais je le dois à chacun, quoi. Et c'est le plus important du sport, je crois, c'est que tu rencontres c'est des rencontres humaines.
Ouais, ouais, qui te font grandir et qui t'enrichissent. Ouais. Justement, j'ai envie de te poser la question, effectivement, de ces années sans club et de l'organisation, parce que je sais que juste avant qu'on débute, tu m'expliquais un peu. Mais juste avant, quand tu dis des grosses propositions de club, si c'est pas indiscret, tu peux donner une fourchette de aujourd'hui combien un jeune il peut toucher? Tu vois, s'il rejoint un gros club comme ça.
À l'époque, c'était assez dingue parce que j'étais au-dessus des prix du marché. Comme tu dis, j'étais un des seuls à pas être de la génération dorée dans un gros club. On m'avait proposé, je me souviens, dans un club de province, 2000 euros par mois, qui pour nous était complètement indécent pour un junior. Et du coup, j'avais refusé ça pour avoir quelques centaines d'euros de bourse dans mon club d'origine. Mais parce que ça m'aurait emmené à ma perte, je pense. Et voilà, pour nous, à l'époque, c'était indécent, quoi. Ouais, voilà, c'est à peu près les ordres de grandeur. J'ai une médaille mondiale junior, on m'avait proposé ça.
Non, mais tu vois, je t'ai demandé quand même, parce que tu dis énorme.
Tu dis à certains sports, ça avait fait rire.
Mais tu vois, tu compares ça avec un footballeur ou même le rugby maintenant, tu vois. Pour un champion d'Europe junior, tu vois, donc t'es quand même, tu fais partie des plus gros espoirs, tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes dans le foot ou d'autres sports, ou tu vois la NBA, le basket et tout, enfin, c'est 100 fois supérieur, enfin, tu vois, c'est...
Mais moi, je vois ça avec un regard de quelqu'un qui vient d'une famille modeste, et que j'étais hébergé à INSEP, nourri, logé, donc c'était 2000 balles d'argent de poche, et je me disais, ouais, c'est dingue, mais bien sûr, j'avais pas assez de connaissances.
C'est pour ça que je me suis permis de préciser, tu vois.
Ah, c'est pour ça que c'est important de le dire. on n'a pas tous les mêmes référentiels. Tu dis ça à un rugbyman à l'heure actuelle, il rigole, quoi. C'est clair, ou un footeux, c'est sûr. Mais bien sûr, c'était le référentiel, et en plus, ça faisait passer un cap aussi à l'époque, c'était énorme par rapport au milieu du judo, quoi. On est peut-être à peu près resté là-dessus, il y a des salaires qui sont montés, ouais. Un petit peu, mais pas des masses. Hein. On est très loin de ces sports-là, d'ailleurs.
Ouais, ouais, non, mais tu vois, c'est... Je tenais à ce qu'on précise quand même. Comme tu disais, énorme et tout, je me suis dit, attends. Faut pas que les gens...
Ils vont rigoler, quand même.
S'imagine, tu vois, des mecs qui arrivent en Porsche à l'INSEP, tu vois. Ah. Bon, il y en a peut-être maintenant, tu vois, mais c'est les tauliers, quoi. C'est ceux qu'on montrait, et encore, je pense qu'il y a l'humilité du champion qui fait que ça n'arrive pas. Du coup, le parcours, toi, à quel âge tu rentres à l'INSEP ?
Je rentre à 20 ans, en 2006, 20 ans.
Et donc, ce que tu m'expliquais, c'est que vous y êtes tous. Vous êtes tous les judokas, jeunes en tout cas, sont là à ce moment-là. Comment est-ce que tu gères, perçois, ressens tu as cet attroupement de talents autour de toi, que certains appellent concurrence, que d'autres appellent coéquipier. Comment est-ce que toi tu le ressens ?
Tu ressens, ouais, je ressentais beaucoup la concurrence à l'époque. Et du coup, tu sens comme, faut s'en sortir. Il y a aussi des très belles rencontres et des amis qui se créent à ce moment-là, très clairement. Hein. Mais par rapport au côté sport, tu te dis, waouh, c'est violent, quoi. Tu te retrouves avec des combats où c'est vrai, hein, tu te fais casser la gueule par les vieux. Et toi, tu cherches à t'évaluer. Certains vieux, des fois, cherchent à te rabaisser sur certains combats pour te dire « Oh, tu restes à ta place, mon petit jeune, quand même. » C'était comme
parce
ça.
Tu prends leur place, en fait.
Le but, c'est de prendre leur place. Hein. C'est d'être calife à la place du calife, hein, donc bien sûr. Tout le monde veut la place du numéro 1, donc tout le monde va chercher à le prendre en combat, à faire le meilleur combat pour que les entraîneurs puissent le voir. Ce qui ne sert à rien, en vrai, parce que c'est la compétition que tu es évalué. Mais toi, tu te construis comme ça un peu. Et ouais, non, je me dis, en fait, c'est lourd, cette concurrence, ça c'est sûr. Et surtout, je me rends rapidement compte que c'est pas possible de s'entraîner comme ça, comme tout le monde. Je suis pas le plus talentueux. Et pour sortir du lot. Donc, du coup, ce que je décide, j'avais déjà les études de kiné, et je me sers un peu, alors je triche un petit peu à l'époque, je me sers des études de kiné pour travailler un nouveau domaine de la prépa physique. Et en fait, j'ai toujours été un peu novateur. Je me suis amusé à faire des choses différentes. J'avais refusé l'INSEP la première année aussi parce que je voulais rester, finir mon cycle à Strasbourg d'études. Donc, j'ai refusé l'INSEP. On m'a dit, on te le reproposera jamais. C'est une fois dans ta vie qu'on te propose l'INSEP. J'ai eu le cran de refuser. Bizarrement, l'année après, on me le repropose parce que je suis une médaille du championnat du monde junior. Donc, j'avais dit. Et donc, j'ai fait un petit clin d'œil un peu vicieux aux entraîneurs à ce moment-là. Après, voilà, je me dis, je peux pas être le meilleur en m'entraînant comme tout le monde, en fait. Je suis pas le plus talentueux, j'ai pas des qualités physiques comme un Teddy, j'ai pas des qualités psychologiques comme Teddy ou Cyril Marin qui sont sous la pression, se transcendent. J'ai pas tout ça. Comment je vais faire ? Et du coup, je me dis, faut faire autrement. Si tu t'entraînes comme tout le monde, tu seras pas le numéro 1 en fait. C'est juste logique si t'as pas des trucs en plus. Et donc j'ai décidé de prendre un prep physique. Et c'est là où l'expérience de mon père avait servi. On avait pris un ancien et qui était une référence dans la prépa physique que j'ai découvert après, Fred Rollen, et qui m'a aidé justement à qui était préparateur physique de Mormec à l'époque. Et donc du coup je disais souvent aux entraîneurs je peux pas, j'ai cours, ce qui était vrai parce que j'avais cours tout le temps. Mais la plupart du temps, je faisais sauter les cours pour être à l'entraînement. Mais là, du coup, je disais, je peux pas, j'ai cours. Et j'allais en cours jusqu'à 20h et je faisais mes prêts physiques le soir. Soit tout seul, soit des fois avec Fred qui venait de façon gentille parce qu'il n'y avait pas assez de budget pour le financer et prendre. Donc, il était super sympa, il venait avec moi. Mais voilà, je me faisais des cours jusqu'à 18h. De 18h à 20h, j'allais faire tout seul ma prépa physique. J'étais convaincu du coup de ces séances-là et c'est ce qui m'a fait passer un cap de ouf. Je pense que quand tu es convaincu de quelque chose, c'est important. Et j'aime bien être innové et chercher quelque chose de nouveau et du coup, être convaincu de ce travail-là, en général, tu te fais passer un cran. Et voilà, il y avait un travail qui était déjà plus intelligent, j'allais plus loin dans certaines filières de PMA, de tout ça, et donc du coup, j'étais précis sur les trucs. Enfin, moi, il y avait des choses qui me révoltaient. Enfin, on faisait tous la même chose, donc du coup, c'était pas très précis sur les reps, et je commençais à comprendre des choses par rapport à mon diplôme de kiné, quoi. Donc j'ai voulu aller chercher quelque chose de plus précis dans ma prépa physique, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais. Comme je te le disais, ouais, c'est quelque chose qu'on ressent tout au long de ta carrière, cette curiosité, tu vois, sur ta santé, sur ta performance, ta longévité aussi, et ça en fait partie. Si tu devais dire, tiens, les trois choses, ça fait un peu accroche, mais les trois choses vraiment que t'as apprises via justement cette curiosité intellectuelle et via ton parcours de kiné, via cette ouverture qui t'ont toi fait passer des caps, qui t'ont fait changer ta manière de t'entraîner, de récupérer, de te préserver.
Il y a un moment où ça m'a fait basculer de dire que cette curiosité, notamment grâce au diplôme de kiné, de passer en qualité plutôt qu'en quantité. Je l'ai appris tard, je l'ai appris avec mon diplôme de kiné en 2014, donc à 27 ans. C'était une de mes premières étapes dans ma carrière. Je suis à l'époque 150e mondial quand j'ai mon diplôme, et je comprends ça. Et après, je suis 15e mondial 6 mois après, et encore 6 mois après, numéro 2 mondial. Donc on voit qu'il y a un vrai gap de passer après mes études, la qualité plutôt que la quantité. Il y a cette notion de curiosité m'a toujours apporté un plaisir, en fait. Parce que du coup, je suis pas dans une routine. J'ai toujours cherché quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est ce qui me plaît, aller se mettre dans un domaine et aller plus loin dans ce domaine-là. Et moi, ça m'apporte énormément, je trouve, de ne pas avoir de routine. Et puis cette curiosité, elle est juste géniale pour ça. Et après, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire ? La confiance, que le travail mental est hyper important. Que ton côté mental, si t'es bien dans tes baskets dans la vie, t'es bien sur le tapis, t'es performant et surtout de travailler... Il y a quelques années, la prépa physique pour peut-être faire la différence. Maintenant, au niveau mondial, tout le monde sait se préparer au niveau physique. Tout le monde a des experts techniques à droite à gauche qui ont voyagé. Et donc, du coup, la différence, tu le fais sur le côté mental, quoi. Et pas que sur le no pain, no gain. Il y a beaucoup le côté savoir s'écouter à certains moments je peux dire ça maintenant parce que j'ai fait aussi énormément de quantité jusqu'à 27 ans. J'étais peut-être un des plus gros travailleurs et c'est pour ça que je me suis cassé et que j'ai fait des quantités de dingue. Mais à un moment, il y a une gestion de la charge de travail qui est importante et pour être bien dans ses baskets aussi.
Ça, tu m'apprends que les athlètes de haut niveau ont des émotions et qu'ils doivent s'entendre. Je tombe des nues. Mais c'est beau, je trouve c'est beau en tout cas le recul que tu as par rapport justement à ce message que tu peux retrouver dans les sports de force, dans les sports de combat où on répète souvent de mettre le cerveau de côté, de justement no pain no gain, il faut absolument souffrir pour gagner. Et toi, t'es passé par là, mais t'en es revenu aussi.
J'ai vu les côtés néfastes que ça a, quoi. Comme je dis, j'ai explosé aussi à 23 ans, donc ça m'a permis de me rendre compte de ça. J'ai vu aussi les côtés au niveau de la tête, ce que ça a apporté, au niveau du physique que ça casse. Donc non, je me suis... Donc attention, il n'y a pas que ça. Par contre, il y a des fois certains jeunes qui croient que faut tout le temps s'écouter. Il y a quand même une charge de travail à faire minimum. C'est pas que en faisant de la qualité que tu deviens champion. Contrairement à certains, j'ai trouvé le juste milieu. Je pense il faut être capable de faire de la quantité, mais aussi savoir s'écouter, quoi. Attention, ne pas mettre le bourrin, certaines réflexions débiles de « Ah, faut aller le tuer !» Non, bah non, tu vois, on n'est plus du tout là-dedans. Donc oui, effectivement. Mais il y a quand même un travail à faire, quoi.
Ouais. Aujourd'hui, toi, ta prep mentale, c'est essentiellement avec ta psy, justement ?
Ouais.
Ok. Ouais.
Avec Myriam Salmi, avec qui je travaille depuis longtemps, qui travaille avec plein d'athlètes, qui l'ont déjà dit dans les médias, voilà, comme Teddy Riner, comme Valentin Belot, comme Mélanie Robert Michon.
Voilà, Lamotte aussi, je crois.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ouais, oh ouais, elle a une belle clique.
Ouais, c'est clair.
Je suis toujours curieux, effectivement, de savoir. Il y a des choses que tu as mis en place. Là, tu parlais un peu des respirations, de ton travail respiratoire, je sais pas, des routines que tu as pu intégrer sur de la visualisation, sur de la méditation, ouais, sur d'autres choses. Il a tout essayé, Axel, je suis sûr.
Non, j'ai pas tout essayé, justement, mais il y a plein de choses que j'ai mis en place. Il peut y avoir, c'est Myriam qui m'avait fait travailler du mindfulness, donc la pleine conscience. Mais elle m'avait appelé mindfulness parce que si elle m'avait dit méditation dans un sport de combat, ça remonte à quelques années. J'aurais dit, mais t'es dingue, c'est pas fait pour moi, ça. Je sais très bien que j'aurais réagi comme ça. Ça veut dire, attention, faut penser avec un cerveau d'il y a 10 ans. Hein. Donc on n'avait pas les mêmes connaissances. Et c'était, on va dire, maintenant, c'est vachement à la mode, la méditation. Et c'est vrai que je me suis mis il y a 10 ans. Donc effectivement, ça m'avait beaucoup apporté. Donc je le fais dans mon quotidien. Et encore plus approche de compétition, plus j'en fais.
Ouais, ok.
Ça apaise le stress et ça permet surtout de basculer dans l'instant présent, comme je disais, pour performer, quoi.
Ah ouais, bien sûr. En fait, c'est le genre de pratique. Tu ressens vraiment à quel point c'est précieux, cette pratique sur toi, quand tu commences à le faire pendant un mois et que t'arrêtes. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, ah ouais, en fait, il y a des petits trucs qui sont déréglés ou, enfin, c'est vraiment la répétition et les effets cumulés qui t'apportent des bienfaits, quoi.
Ça, je suis d'accord pour le bien-être, tout le monde va te le dire. Mais il y a aussi, parce que je pense que les gens qui nous écoutent aiment bien aussi pour le côté performance. Et moi, je sais que c'est une façon de muscler son cerveau. J'aime parler d'endurance, de concentration. Tu vois, c'est une façon de muscler son cerveau, de réussir à tenir dans l'instant présent, parce que quelqu'un va essayer, il va faire une minute et il va switcher dans un combat. Mais en fait, si tu tiens une minute et que l'autre tient quatre minutes, bah, en fait, t'as déjà perdu. Et moi, je me rendais compte au début. J'étais capable d'être concentré, par exemple, sur une séance globale de combat. Au début, 30, 45 minutes, vraiment très engagé sur un thème de travail. Et puis après, ça s'est étiolé, ça partait complètement. J'ai fait travailler cette concentration qui tient et qui est musclé ce cerveau pour qu'il tienne dans le temps, sur la séance globale. Et dans le combat, où c'est encore plus intense, au début, bah, je tenais 1 minute 15, 1 minute 30, et puis après, j'ai réussi à grappiller.
Ah, t'as les petits moments d'absence, les fameux.
Voilà, les petits moments d'absence qui te fait perdre, en fait. Où les gens vont dire, ah, c'est le détail, j'ai mis mon pied là. Ben non, en fait, si t'as mis ton pied là, c'est que ta tête avait lâché sur ta concentration. Et donc, du coup, ça, c'est. Et j'ai créé un peu mon système d'attaque là-dessus. Et après, à la fin, mes médailles mondiales, j'ai fait là-dessus, en fait. J'ai fait découpiller les mecs sur une capacité de concentration. Et du coup, en fait, je sentais là, dans leur regard. Je voyais le moment où ça lâchait et du coup tu sens une rigueur qui n'est plus là, une main qui n'est pas au bon endroit, hein, et quelque chose, et donc du coup, ah là c'est le moment, il a switché. Et voilà, et moi je le sentais vachement, quoi. Et je m'amusais à emmener les mecs là-dedans loin, dans cette endurance de concentration. Alors les gens de l'extérieur voient ça comme un impact physique que je vais mettre, parce que je fais un travail de sable dans mes combats, je suis rarement à gagner dans les toutes premières minutes, mais en fait il est aussi psychologique énormément, dans la concentration.
Mais merci beaucoup de parler de ça, tu vois. La méditation, c'est la musculation du cerveau pour, effectivement, tu l'as très bien dit, pour rester concentré plus intensément, plus longtemps. Et je pense que c'est d'autant plus important, enfin, dans une ère où les réseaux sociaux, tu vois, sont en train d'empiéter, d'absorber notre attention, d'absorber notre jus de cerveau, notre capacité à réfléchir, notre capacité à rester concentré, notamment parce que bah, les réseaux sociaux nous apportent plein de petits shots de dopamine un peu inutiles. Et pour le cerveau, ça devient de plus en plus dur, en fait, de faire cet effort. Là, quoi, donc
parce qu'on est habitué d'avoir un truc nouveau toutes les 15 secondes, donc la durée d'une story, donc ouais, effectivement, c'est super mauvais. Effectivement, faut le travailler à côté, quoi. Et je pense que c'est chez les jeunes, c'est hyper important, quoi. Je pense que les anciens étaient bien meilleurs, quoi.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nous, parce qu'il n'y avait pas ce côté pervers des réseaux sociaux. De toute façon, pour la performance, c'est hyper important.
Ouais. Merci de le préciser. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est dans le business, méditer, ça m'a fait vraiment augmenter ma capacité de concentration, vraiment, et d'instant présent. Et c'est aussi bien dans les interviews que dans des recrutements, dans des ventes, dans plein de choses. Et c'est important pour... Donc hyper.
Et c'est pas que le côté méditation où des fois ça peut faire hisser les poils de certaines personnes. Le côté bien-être, il y a plein de personnes qui en parleront mieux que moi. Moi, je vais plus parler du côté performance et voilà.
Ouais. T'as tout à fait raison. Il y a un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi aussi, vu que là on a parlé musculation du cerveau, mais musculation du poids, on l'a abordé tout à l'heure, je t'ai taquiné, je me suis permis. T'es passé de la catégorie moins 80 kilos, du coup, il me semble que t'avais 20, donc t'as ces 23 ans là. T'as les 23 ans au moment où tu craques.
C'est après les Jeux de 2012. Que je monte de catégorie.
Donc, t'as 25.
Ouais, 25 ans.
Pourquoi ce choix-là ? C'était plus possible ?
Ouais, non, c'était plus possible. Je tenais plus du tout en 81. Mon poids était beaucoup trop lourd. À l'époque, on était encore pesé le matin même. Au moment où j'essaie de monter, deux mois après, ils annoncent que c'est pesé la veille. Ça change tout pour la perte de poids. Tu peux perdre beaucoup plus de poids. Mais j'avais fait mon travail pour monter et même c'est plus possible. J'ai plus envie de ces restrictions. Mon judo aussi s'était adapté. C'est-à-dire que j'étais devenu trop lent. À force de prendre du poids, j'étais devenu trop lent. Je voyais les mecs qui me passaient entre les jambes, qui allaient beaucoup trop vite. C'était un cauchemar. Donc, du coup, fallait monter clairement.
Ouais. Ok. T'as pas eu peur de monter? Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai souvent, en tout cas avant Teddy, je voyais vraiment la catégorie de moins de 90 un peu comme la catégorie reine, tu vois. C'était, pour moi, c'était les gars qui faisaient à peu près ma taille ou qui faisaient un gabarit que je pouvais aller chercher. C'était à la fois extrêmement technique, extrêmement puissant, extrêmement rapide. Là où, tu vois, bah, tu l'as très bien dit, effectivement, quand tu montes dans les catégories, poids, c'est un peu plus lent, c'est plus dans la puissance. Moi, je trouve un peu moins de technique aussi. C'est qu'un avis perso. C'est toi l'expert, donc tape-moi sur les doigts si je dis des bêtises. Mais est-ce que ça fait pas peur, justement, alors que tu es en pleine carrière, de faire ce switch? Et d'ailleurs, il est fréquent ce switch comme ça?
Oui, ça arrive. Enfin, après, en général, on a peur de monter de catégorie. Parce qu'en fait, tu passes où tu as un classement mondial, un classement aussi dans le regard des sélectionneurs par rapport à ta catégorie. Tu as une reconnaissance dans ta catégorie. Tu repars à zéro. Hein. Tu deviens même plus tête de série, hein, championnat de France. Tu reviens nul. Hein. Vous avez même dû refaire les zones, hein, championnat d'inter-région. Donc oui, effectivement, c'est violent. Tu as peur, mais clairement, j'avais senti aussi que c'était cool, retrouver le plaisir du judo, putain, c'était cool, arriver sans avoir à faire de régime énorme, j'ai adoré ces périodes-là, quoi, et j'avais retrouvé le plaisir aussi de refaire judo, où j'utilise la force de l'autre, justement, parce que du coup, chez 80, j'étais grand, qui prenait des gens plus petits, donc je vais mener par au-dessus, et là, maintenant, je me retrouvais à peu près à taille égale, je suis quand même grand dans 90, mais ça va, et j'ai des gens plus puissants que moi, et j'ai un judo à la base où j'utilise la force de l'autre, donc j'utilise leur force, et je retrouvais mon judo de gamin, un peu comme les jeux qu'on en parlait. Et donc c'était un vrai kiff. J'ai pu pouvoir réexprimer mon judo. Bon, ça avait passé par des stages horribles. Hein. Je me souviens d'un stage du Tour de Paris. C'est la première fois où je prenais stage du Tour de Paris. C'est-à-dire qu'après la compète, tous les meilleurs mondiaux restent. On a à peu près 500 sur le tapis. Et tous les meilleurs mondiaux restent. Et du coup, on s'entraîne ensemble après la compétition. Et moi, j'avais pas fait la compétition. Ouais, en stage. J'avais pas fait la compétition, je faisais le stage. C'est la seule fois où je prenais les 4 années. Je me souviens que je m'étais dit, mais... qu'est-ce que je fais un matin où j'arrivais plus à me lever, j'avais mal à mon corps partout et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais, ça? t'as l'impression d'avoir un camion qui t'a roulé dessus la veille, quoi. Mais qu'est-ce que je fais dans cette catégorie-là? C'est trop impactant, quoi. Parce que les mecs plus lourds tous les jours, oh, c'est dur, quoi.
Ouais, c'était beaucoup de muscu, j'imagine, beaucoup de...
Il a fallu faire un bloc muscu pour monter, bien sûr. Mais après, voilà, ça, c'est des trucs qui se travaillent. Un bloc, comme tout, le corps s'adapte à tout, et avec du travail, tu passes au-dessus de tout. Donc, ouais, effectivement, il a fallu faire un bloc de muscu, un bloc d'endurance, de force, une capacité aussi au niveau cardio. Je suis passé plus sur de l'ergo, où je courais beaucoup en 81, et plus de l'ergo pour pouvoir travailler une certaine puissance et maintenir la puissance dans le temps. Parce que du coup, j'étais capable de le faire. On avait vu au début sur les compétitions, je pouvais le faire sur un match ou deux, mais quand les efforts se répétaient, j'étais pas capable de le faire, quoi. Donc il a fallu faire un travail physique pour compenser ça.
Ouais, ok, ouais, t'as tout le corps qui se transforme, donc il a besoin de s'ajuster.
Et après, c'était aussi redécouvrir tous les concurrents au niveau français d'abord, et après au niveau mondial, parce que c'est ça qui freine des fois la montée de catégorie. Tu connais par cœur tous les autres, donc il faut refaire de l'analyse vidéo aussi sur tous les concurrents. Adapter ton judo aussi en fonction de... Voilà, dans une catégorie, t'es plus grand, là tu deviens plus petit, donc le judo s'adapte.
Ok, ouais, j'avais pas du tout pensé à ça, effectivement, cette réanalyse de tous les autres combattants.
Ouais, c'est clair, ça fait un travail.
Ouais, c'est costaud. C'était un problème avant, ça, pour toi, la prise de poids? Enfin, la perte de poids, pardon.
Ouais, bien sûr. Et puis, ça le redevient maintenant, parce que du coup, je suis monté à 25 ans, donc ça fait 10 ans. Effectivement, c'est une partie du haut niveau, c'est une partie des contraintes de notre métier, j'ai envie de te dire, de mon sport, et qu'il faut savoir gérer pour être performant, c'est hyper important. J'aime bien prendre l'exemple, si tu mets pas le bon essence dans le moteur, hein, tu peux pas avoir le plus gros moteur, hein. Tu peux avoir un moteur de Porsche, hein, si tu mets pas le bon essence dedans, il avancera pas. Hein. C'est pareil, hein, si je peux avoir le plus gros muscle que je veux, mais si je mange pas la bonne chose, mon moteur, il sera nul. Hein.
Ouais, bien sûr.
Donc, c'est hyper important.
Et c'est quoi, ta stratégie de poids avant une grosse compétition? Est-ce que, justement, tu vas faire... C'est peut-être plus à la mode, mais j'entendais parler de quelques athlètes qui faisaient des grosses sèches pour tomber dessus et qui essayaient de reprendre au maximum, tu vois, dans les quelques heures, dans les 24 heures avant la compète. Est-ce qu'au contraire, tu essaies de rester le plus constant possible sur l'année pour pas perdre trop de jus?
Alors là, c'est délicat parce que je sais que t'as beaucoup de jeunes qui écoutent. J'ai envie de dire, montez de catégorie dès que vous pouvez, mais c'est vrai qu'à très haut niveau, on fait une sèche, une perte de poids d'un coup. On est pesé la veille, ce qui change par rapport aux compétitions des jeunes en général. C'est vrai qu'on peut se permettre et surtout, on est encadré par des professionnels. Je travaille avec une diététicienne, j'ai travaillé avant pareil avec une docteure en physio, où on a des analyses de notre corps, de notre métabolisme, comment il fonctionne, tu vois, ça fait partie des leviers que j'ai dit, où j'ai toujours aimé apprendre sur mon alimentation. J'ai été très loin à un moment pour apprendre vraiment comment faut fonctionner, et donc effectivement j'ai appris par exemple à un moment que mon corps, à cause des régimes, avait basculé à prendre beaucoup trop de protéines, et j'avais besoin d'un apport protéique énorme. Donc j'ai fait un rééquilibrage alimentaire grâce à une docteure en physio à l'époque, et ça, c'est des choses qui sont passionnantes. Donc voilà. Et pour répondre à ta question, oui, je fais une grosse perte de poids, et malheureusement au niveau mondial c'est à peu près le cas, hein, parce que quand t'es pile au niveau du poids, il y a un moment où quand tu prends les mecs en fin de journée, le lendemain ils sont beaucoup plus lourds. Je vais taire le nombre de kilos parce que pour ne pas donner de mauvais exemples aux jeunes, mais ils sont énormément plus lourds, et donc tu le sens à un moment sur les phases finales, quoi.
Et comment tu peux prendre plusieurs kilos en...
Et le gap il est énorme, hein. Tu vois, au jeu, la reprise de poids que j'ai eue, quand tu dis qu'il a fallu faire une reperte de poids, j'ai pas vu la finale de Teddy. Enfin, tout le monde me dit, ah, comment Teddy, machin, au jeu. Non, je l'ai pas vu. J'étais pas en train d'être dans la salle, en train de supporter mon pote la veille, les équipes. J'étais en train de perdre le poids pour pouvoir recombattre aux équipes, parce qu'on est reposé pour les équipes, tu vois. Et ça, c'est un moment qui était très difficile, mais en fait, on a repris énormément de poids parce que ton corps capte l'eau que t'as perdu. Donc, le corps se met en protection. Il garde toute l'eau. Et sauf que là, moi, je devais le reperdre pour 3 jours après, quoi.
Et donc là, pour perdre tout ce poids, alors bien sûr, qu'on le redit, c'est fait par un professionnel, entouré avec des professionnels, avec plus de 20 ans d'expérience à haut niveau, donc tout est millimétré. Mais grosso modo, le protocole avant du coup cette perte de poids, c'est quoi?
T'es sur de la déshydratation les 24 dernières heures.
Donc tu fais quoi? Est-ce que tu prends du sel, par exemple?
Non, bah non, justement. Au contraire, pour déshydrater, tu vas éviter toute l'alimentation salée les 2-3 jours avant. Et surtout, ça va être ce qu'on peut voir sur des reportages où on est couvert comme pas possible à courir avec 3-4 couches et des sudisettes pour perdre de l'eau, en fait. Et en fait, moins de 24 heures...
Tu vas aller
au bord
de l'hypo, en fait, de l'hypo et de la...
Non, c'est pas de l'hypo, non, vraiment. Non, parce que c'est juste de l'eau que tu vas perdre.
Ça affaiblit à fond, non?
Pas moins de 24 heures. Pas moins de 24 heures, d'après ce que les spécialistes nous disent. Et donc, du coup, parce que surtout qu'on a le temps de récupérer, on est pesé la veille à 16 heures maintenant. C'était 18 heures avant. Et donc, jusqu'au combat du lendemain 10 heures, on a le temps de récupérer et de se réhydrater. Donc, voilà.
Ouais.
Donc, c'est ce qui change tout, quoi. Voilà.
Ouais, ok. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Merci.
Ouais, non, après, et vraiment la gestion, enfin, c'est vraiment de quelque chose de, ça fait vraiment une grosse part du haut niveau. Et c'est ce qui nous différencie des autres sports. Quand les autres sports nous voient, c'est le côté difficile du judo et des sports à catégorie poids de devoir surveiller son alimentation. Bah, tu peux pas te faire plaisir avant une compétition. C'est selon les personnes, 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant, où tu dois complètement surveiller toute alimentation avec aucun écart. Et effectivement, c'est dur.
Tu pèses tout?
Tu pèses tout, oui, non, ça va. Par contre, tu sais exactement combien tu perds, tu vois. Un judoka va te dire, pendant une sieste, je perds tant. Je sais exactement combien je perds à la sieste. Si je fais une sieste de 45 minutes la veille de ma compète, je sais combien je perds. Je sais combien je perds pendant ma nuit. Je sais combien je perds en faisant la moindre activité. Tu sais tout ça, tu deviens expert. C'est un domaine qui influe pour bien performer, quand même. Pour ne pas, justement, y lâcher trop dur. Parce que le but, c'est pas la perte de poids et d'être au poids. Le but, c'est de ramener la médaille au bout, quoi.
Ouais. Et t'as des grandes lignes alimentaires, tu vois, je vois de plus en plus des athlètes passer un peu végé ou végétariens, d'autres qui vont pratiquer le jeûne intermittent et tout. Toi, t'as pas de...
Non, moi, je suis sur des choses beaucoup plus classiques, avec une alimentation équilibrée, et c'est surtout limiter les écarts. Je suis quelqu'un qui sait être festif quand il faut. Et puis après, bah, quand on se rapproche des compétitions, bah, voilà, il y a clairement faut surveiller son apport glucidique, son apport calorique journalier. Il faut que, voilà, les grandes lignes, c'est juste que ton apport soit inférieur à ta dépense. Hein. En gros, c'est ça. Et ne pas faire les trucs débiles que je vois chez les jeunes qui arrêtent de manger ou qui arrêtent de boire à partir du lundi. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ça, c'est une catastrophe pour votre corps. Pour vos tendons, c'est le kiné qui vous parle. Ça détruit vos tendons. Vous allez vous faire des inflammations. Et puis, ça fait des troubles alimentaires de dingue. J'ai pas envie d'aller plus loin parce qu'il y a des spécialistes qui pourront plus l'exprimer.
Ouais, ouais, bah écoute, merci de nous partager en tout cas ces petits secrets. Et puis c'est toujours, tu vois, il faut toujours, je pense, répéter, remettre dans le contexte de qui fait quoi. C'est pas adaptable à n'importe qui, mais.
Non, après, le pire, c'est que je fais des choses simples. Hein. Et c'est beaucoup de légumes, de la viande blanche ou du poisson. Et par contre, je mange à tous les repas. Tu vois, ça va faire halluciner. J'ai des gens, des fois, qui vont me suivre, soit un journaliste, soit des fois. L'autre jour, j'ai changé d'entraîneur il n'y a pas si longtemps. Il a halluciné. Mon premier régime, j'ai fait 14 mois sans régime après les Jeux. J'ai mangé jusqu'au dernier repas. C'est-à-dire que je ne saute pas un repas. Mais comme tout est calibré, je sais qu'on a relancé mon métabolisme de base. C'est-à-dire qu'on va faire pour que ton métabolisme consomme plus d'énergie. Si tu manges plus, en fait, tu vas diminuer ton corps, va se mettre en veille. Donc, en fait, il va plus dépenser d'énergie. Donc, en fait, ça sert à rien de plus manger. Au contraire, il faut manger, comme ça l'oblige à brûler des graisses, à brûler des calories, et donc du coup ça va... Voilà, donc il y a plein de notions comme ça à apprendre, mais la magie, elle est... Il n'y en a pas. C'est juste tout ce qui est gras et sucre, on le diminue. Mais on a besoin de tout. C'est plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'à un moment, au régime, j'avais quand même bouffé et mettre de l'huile sans problème dans mon truc. Ton corps a besoin d'huile, ton corps a besoin de tout en fait. Ton corps a besoin de gras pour vivre, il a besoin de sucre, il a besoin de... Mais il faut savoir le mettre au bon moment, quoi, et le quantifier. Et c'est hyper important pour la santé de tout le monde. On parle de santé publique. Hein. À l'heure actuelle, c'est un problème qui touche peut-être les plus jeunes. Attention, parce que du coup, à cause de tout ça, j'ai assisté à une conférence d'un professeur il n'y a pas longtemps qui disait qu'on a du diabète chez les moins de 18 ans à l'heure actuelle, alors qu'on n'en avait pas avant. Quoi. Diabète de type 2, alors ça fait peur. Quoi. Parce qu'il y a des mauvaises habitudes alimentaires et que les gens ne font plus de sport. C'est petit côté santé, désolé.
Non, mais il faut le dire. C'est vrai que malheureusement, tout ce qui est bouffe transformée, tu vois, ça devient un vrai problème de santé nationale, quoi. Et on est complètement décorrélé déjà effectivement, des produits qu'on pourrait consommer, du marché. Et avec l'avènement de tous les produits transformés, on va vers les solutions de facilité. Et du coup, des produits très sucrés, très très salés, enfin, très sucrés, très très salés aussi, et sur lesquels il faut faire attention, quoi. Donc,
c'est un des trucs du haut niveau, par contre, qui m'aide au final, parce que je pense que je prends soin encore plus de mon corps. Grâce au niveau, du coup, effectivement, j'ai des blessures, mais ça lui apporte pour le long terme, parce que je suis obligé de faire attention à ce que je mange, donc ça apporte pour le long terme. Ouais. Quoi.
Ouais. Tu dois te complémenter aussi sur
quelque chose. Ouais, ouais. Je suis complémenté, je suis en partenariat avec NutriPure depuis quelques temps, et bien sûr, je prends quand même des compléments, parce qu'il y a des choses où ce que je fais au quotidien, c'est pas naturel, c'est pas normal. Donc oui, je vais aller prendre des fois un peu de protéines, mais j'aime le faire aussi avec des choses simples comme 2 tranches de jambon et une compote à la fin d'entraînement. Mais il y a le côté aussi où c'est plus efficace avec un shaker de NutriPure, et je vais varier en fait, tout simplement. Mais voilà, je vais me compléter aussi avec les oméga 3, avec de la collagène pour mes tendons de chez NutriPure. Je vais prendre certaines choses comme ça pour apporter des choses à mon corps, parce que ce que je lui demande, c'est pas naturel, quoi. C'est pas normal. Et puis même, tout le monde des ensembles, tu vois, ma sœur est très portée nutrition aussi. Elle savait même pas, après que j'ai commencé mon partenariat avec Nutripure, j'ai appris qu'elle commandait chez Nutripure depuis longtemps, quoi. Que ce soit des oméga 3, on en a pas souvent dans l'alimentation, de la vitamine C aussi. Il y a des choses qui vont nous manquer dans l'alimentation des fois.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, bah moi, tu vois, Christophe Cario, il m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance du collagène, tu vois, notamment pour les articulations. Alors moi, tu vois, en ce moment, c'est plus crossfit et course à pied, mais il y a des impacts. Tu travailles quand même beaucoup sur tes articulations. Et effectivement, ouais, me complémenter oméga 3, multivitamine, pour moi, c'est la base, quoi. Voilà, donc.
Et moi, j'utilise aussi, par exemple, beaucoup les électrolytes pour ceux qui s'entraînent beaucoup. Je transpire énormément. Je suis capable de perdre 4, 5, 6 litres de sueur sur une séance. Donc du coup je suis obligé de me complémenter et donc là de prendre des électrolytes pour fixer la flotte après les entraînements, quoi. Ouais.
Bon, en tout cas on sent que tu connais parfaitement tes sujets et c'est hyper agréable. Si on reste un peu sur la verticale santé, effectivement je voulais te parler un petit peu de ta carrière de kiné. Combien de temps ça te prend aujourd'hui? Et j'aimerais bien que tu me racontes l'histoire, un peu comment ça s'est fait. Tu me disais que tu avais galéré à trouver des sponsors à cause de ce diplôme. Comment est-ce que ça s'est fait petit à petit et comment aujourd'hui tu as trouvé ton équilibre?
Alors en fait, comment ça s'est fait? J'ai eu mon diplôme en 2014, donc effectivement à 27 ans. Là, à ce moment-là, ben, je perds un de mes contrats avec les douanes. On me dit que c'est parce que j'ai une reconversion d'assuré. Je demande à la fédération de chercher des contrats d'insertion professionnelle. Donc c'est des contrats financés et par l'État et par notre fédération. Et en fait, on n'arrivait pas à en trouver parce que tout le monde disait, les institutions classiques disaient, lui, on sait qu'il est en reconversion, donc il finira pas chez nous. Donc c'était
l'armée, les douanes.
Ouais, l'armée, les douanes, la police. Et en fait, j'intéressais personne. Parce que j'avais déjà une reconversion d'assurée et que j'avais pas finir chez eux. Alors que j'avais cravaché comme un dingue 7 ans d'études pour avoir mon diplôme, ça devenait un gros handicap. Alors que moi, je me suis dit, cool, j'ai une plus-value. Et ben non, en fait, je m'étais tiré une balle dans le pied en faisant ça. Et donc, du coup, j'ai dû chercher par moi-même. Oui, non, j'aurais jamais imaginé ça. Au contraire,
personne ne t'aurait dit au bout de la 6e année.
Ouais, arrête, fais pas ça, ne fais pas ton diplôme, tu vas galérer. Mais en même temps, c'est la meilleure des choses parce que voilà, ça m'a apporté une vision globale, comme on a dit tout à l'heure. Ça m'a apporté tellement de choses que je regrette pas du tout. Hein. Au contraire. Donc du coup, j'ai remué les terres. Après ma première médaille mondiale, j'avais toujours ce problème-là. 2018. Je dis, attends, je suis médaille mondiale. Et il me faut une CIP pour avoir une stabilité, parce qu'à un moment, j'avais pas trop de stabilité. Par rapport à ma sécu sociale, par rapport à tout ça.
Avec le club j'imagine, ouais, et puis 2-3 autres sponsors à côté.
Non, et à l'époque, si, un sponsor. Mais qui passait par des biais particuliers qui ne me permettaient pas d'avoir une sécurité, même pour faire un emprunt ou quoi que ce soit. Et puis même pour avoir une vraie sécurité, et puis pratiquer dans mon domaine, quoi, que j'aime. Tout simplement, je m'étais fait chier à avoir ce diplôme, j'avais juste envie de pouvoir pratiquer dans ce domaine-là. Et du coup, en fait, en multipliant les rendez-vous, j'ai réussi à un moment à rencontrer la députée de la circonscription de mon club, donc à Sucy-en-Brie, qui est Maude Petit. Du coup, je leur expose mon problème, je fais voilà. Et ils me disent, on a un centre de rééducation sur notre circo, et on va demander à la directrice. Coup de bol, Madame Gaëté Cosset, que je remercie. Et du coup, elle avait fait de la sociologie dans le sport. Et donc, du coup, elle était sensible à ma demande. Elle m'a avoué après aussi qu'elle avait vachement matché sur ma façon de voir les choses, mon envie, mon enthousiasme, ma façon de vouloir entreprendre ce que j'aime bien le côté entreprendre aussi, dans le centre de rééduc. Et donc, du coup, on a avancé comme ça, et elle m'a donné ma chance, quoi. Et donc, on a créé une CIP, un peu toute pièce, ensemble, qui est financée et par ma fédération maintenant, et par l'agence du sport. Donc, c'est une bonne chose, quoi.
Ok. Voilà. Donc, ouais, t'as dû créer ton propre carrière, quoi.
Voilà. Alors que dans les filières classiques qui aident les sportifs de niveau habituellement, je pouvais pas, quoi. Donc, j'ai dû remonter les manches et trouver par moi-même. La fédération trouvait pas et j'ai dit, à un moment, faut trouver soit un centre de rééduc, soit un cabinet de kiné, un gros cabinet de kiné qui sera capable d'avoir ça, qui voudra s'attacher un peu l'image d'un médaille mondiale. Et j'ai dû, et c'est vrai qu'après ma médaille mondiale de 2018, j'y ai lâché beaucoup d'énergie. On m'a critiqué à un moment. J'ai lâché 3-4 mois à faire que ça. Recherche de sponsor et recherche de quelque chose comme ça pour asseoir un peu ma position, c'était ce que je voulais pour pouvoir aller jusqu'en 2020 avec de la sérénité, quoi. Et c'est vrai que j'ai lâché beaucoup de jus et on me disait, mais Axel, t'es en train de te perdre et tout, t'as enfin atteint ce que tu voulais, tu t'y perds. Je fais, ouais, mais je veux le bonifier, en fait. Et à un moment, il a fallu que j'écoute aussi les personnes qui me disaient ça, c'était mes entraîneurs, des amis. Et donc, du coup, j'ai arrêté ça et j'ai eu les fruits de tout ce travail qui sont retombés quelques mois après.
Ouais. Déjà, merci de raconter ces histoires et tu vois, de raconter ces galères-là parce que c'est pas des moments faciles, tu vois, où j'imagine en plus il y a un peu des doutes, c'est pas agréable, tu performes. On t'a toujours dit qu'il fallait faire des études, mais en fait, là, ça te dessert.
Ça te dessert, tu galères. Bon, voilà. Sans dire que voilà, j'ai quand même eu le discours à un moment, et j'ai pas peur de le dire, d'un entraîneur national qui m'a dit une fois Et dans la période de galère, si tu continues tes études, enfin, je te sélectionne pas tant que t'es en études. Ça, c'est, enfin, c'est clash. Et donc, du coup, ça, c'était un an et demi avant la fin de mon diplôme. Parce que forcément, un athlète qui fait des études, ben, faut adapter le planning et ça fait chier, quoi.
Ça a évolué un peu le discours là-dessus,
ouais,
justement.
Ça évolue. Ouais, ça évolue. Alors, c'est plus simple d'avoir un athlète qui fait pas d'études, c'est sûr. Parce que maintenant, on part beaucoup à l'étranger. On doit en parler d'ailleurs des stages qu'on fait à l'étranger. Bien sûr, ça évolue, je pense. Et puis aussi, les mentalités des entraîneurs ont évolué. Beaucoup de personnes ont changé aussi, en tout cas dans notre fédération, ça a beaucoup changé. Donc, les mentalités évoluent clairement. Et puis aussi, grâce au e-learning, suite au Covid, je vois des athlètes maintenant qui font des belles études. T'as une Blandine Pong qui vient de faire un champion du monde, qui est en quatrième année de dentaire. T'as des gamins qui sont en école d'ingénieurs, de commerce, donc c'est cool. Je pense à un Romain Valadier qui fait des études à côté, un Kenny Livez, et ça c'est bien, et ça c'est bien, et moi je les encourage à ça. Alors oui, c'est dur. Alors oui, peut-être que tu vas tirer une balle dans le pied, que tu performeras pas tout de suite, alors qu'en plus c'est souvent des gens qui sont hyper investis, comme je l'étais, mais sur le long terme tu seras gagnant. Ça te construit en tant qu'homme, quoi.
Ouais, c'est clair. Généralement, un peu, en plus, les gens qui ont beaucoup de succès, ou quand tu vas voir des grands entrepreneurs, par exemple, et que tu leur demandes un peu les clés de leur succès, bah, ils te disent, c'est le cumul d'apprentissage dans plein de milieux différents qui un jour se connectent et qui font que tu progresses, tu vois, et que tu passes un cap. Bah, je pense que dans le sport, t'as aussi la même chose, c'est que t'as des athlètes qui, s'ils ne font que du sport, ne vont pas pouvoir, tu vois, s'éclore en tant qu'être humain sur la partie psychologique, ne pourront jamais, tu vois, exploser, alors que justement, si à côté ils cultivent d'autres intelligences, ils cultivent d'autres passions, d'autres apprentissages surtout, eh ben, ils arrivent en fait à connecter les points, à dire tiens, ça, ce que j'ai appris à mon école de commerce ou dans le dentaire, tiens, je pourrais peut-être le faire.
Et puis ça te permet aussi de relativiser l'importance des événements. Alors, je vois qu'on en parle beaucoup avec Enzo Lefort et tout ça, mais d'avoir d'autres choses à côté, bah. T'existes pas que par rapport au sportif que tu es. T'existes pour une personne à côté, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et ça, du coup, quand t'arrives sur un événement, je te dis que moi, il y a deux événements qui m'ont fait des déclics dans ma carrière. C'est mon diplôme de kiné et mon fils. Bah, parce qu'en fait, j'avais toujours dit, bah, maintenant que j'ai mon diplôme de kiné, du jour au lendemain, si je me fais chier sur un tapis, bah, j'ouvre mon cabinet et c'est fini, quoi. Vous me voyez plus. Et après, avec mon fils, pareil, ça m'a fait relativiser. Donc, quand t'arrives sur une compète, je gagne, je perds, ça changera pas ma vie.
Ouais. C'est le plaisir.
J'ai mon fils à la maison, puis j'ai un diplôme et je m'éclate avec des gens dans un cabinet, donc c'est cool, quoi.
Ouais. Mais du coup, comment tu fais? Attends, parce que papa, kiné, judoka doivent être bien remplis les journées, les semaines, plus les stages.
Ouais, plus les stages où on part 3-4 mois au moins en moyenne à l'étranger par an. Oui, effectivement, ça fait des journées bien remplies. Faut trouver son équilibre. Kiné, j'ai de la chance. Le centre de rééducation a compris et il me détache énormément. Donc j'y suis pas tout le temps, je vais plutôt faire des gros événements ponctuels maintenant. J'ai des enfants handicapés et c'est génial, je vais être à leur côté. J'aimerais y retourner plus parce qu'en plus ils m'apportent une énergie de dingue. C'est à dire que quand t'es un sportif de niveau, ton petit bobo à cheville, ta petite pointe dans l'ischio, tu vas en faire tout un plat. Et eux, moi j'ai des gamins qui ont des halos, donc c'est des vis dans le crâne avec toute une armature autour pour être tracté. Donc on voit vraiment les vis dans le crâne qui fixent une sorte d'anneau autour de la tête relié à une poulie pour les tracter complètement avant une opération pour fixer la colonne vertébrale. Donc j'ai des gamins comme
et ça. Quand tu ça te fait relativiser aussi. Ouais.
Et les gamins, ils ont le sourire et ils rigolent à fond. Et toi, tu dis, ok, bon, mon petit bobo, je le mets de côté et je vais avoir le sourire. Quoi. Et j'ai des gamins qui ont la maladie des os de verre. Donc tout ça, ça te fait énormément relativiser ton quotidien. Donc ça, j'adore y aller pour ça. J'y vais pas assez à mes yeux pour pouvoir me nourrir énormément. Je leur apporte mon côté. Voilà. Et donc pour gérer mon planning, bah voilà, c'est aussi s'entourer des bonnes personnes. Voilà, et puis essayer de mettre des priorités, quoi. Mais c'est pas toujours facile.
Ouais, je viens le croire. Le temps file, et effectivement, vu qu'on parle de temps, il faut aussi que je te libère, mais j'avais envie de... Alors, il y avait deux sujets qui sont hyper importants pour moi. Le premier, c'est le combattant. Là, j'ai envie qu'on... Là, depuis tout à l'heure, on a le sourire, on rigole, tu me dis tout sur cette légèreté, et c'est ça que moi, j'ai apprécié énormément chez toi, tu vois, en regardant les contenus et que tu avais pu produire, les petites interviews, et c'est aussi, tu vois, ce qu'un Enzo ou une Sarah a pu me dire sur toi, c'est Axel, hyper accessible, hyper souriant, hyper cool. Mais sur un tatami, on va pas se mentir, c'est pas le monde des bisounours. Je vais pas dire tous les coups sont permis, mais ça reste un sport de combat, de duel, d'affrontement. Et il faut faire ressortir une certaine agressivité. La première question que je voulais te poser, c'est comment tu fais ressortir cette facette de ta personnalité au bon moment ?
Je pense que c'est naturel. J'ai un côté combattant au fond de moi. Ouais, c'est vrai que sur un tapis, enfin voilà, vous avez l'image des yeux, j'ai un bandeau sur la tête. Effectivement, je suis un gros combattant. Je crois que c'est assez naturel. Et justement, au contraire, je la bride à l'extérieur. parce que je sais que ce côté combattant, il est pas bon à l'extérieur. J'ai pas envie de l'avoir à l'extérieur. Donc
mais tu le ressens des fois de temps en temps.
Des fois, il y a quand je vais dans des discussions, je vais être en opposition et j'aime bien être l'avocat du diable, être dans l'opposition et la discussion. Mais par contre, j'ai un vrai côté combattant sur le tapis et il sort tout seul. C'est ce qui est assez marrant, c'est que j'aime bien être doux en dehors. Comme mes petites mamies en kiné me disaient toujours, j'ai trop peur avec lui. Au final, il est plus doux que tous les autres. Mais par contre, sur le tapis, non, je fais pas de cadeau. Et je suis effectivement, je suis un de ceux qui fait le plus mal sur le tapis. J'en ai conscience. Je suis dur. Je suis un spécialiste du newaza, du travail au sol. Pareil, je fais mal au sol. Je suis un vrai combattant. Je lâche sur aucun. Toutes mes séquences de kumikata, elles font mal. C'est mon côté rugueux, la rigueur du vieux aussi. Je suis rugueux. Et voilà, c'est ce côté-là. Ouais, je pense que je le laisse ressortir tout seul. Mais c'est assez surprenant. C'est plus qu'à côté, en fait. Tu sais, je fais la bagarre tous les jours sur un tapis. Donc en dehors, pas envie, quoi.
Comment est-ce que tu l'actives, ce côté, avant une compétition ?
Je varie entre côté méditation, pleine conscience pour m'apaiser et aussi il faut se mettre dans un bon niveau d'activation, quoi. Donc en chambre d'appel, il y a un moment où la veille d'une compétition, je vais me rappeler tous les sacrifices que j'ai fait aussi pour en arriver là. Je vais être dans ma chambre et je vais me dire, souviens-toi que tu as traversé cette étape-là où tu es là, tu n'es pas avec ton fils, tu as laissé ton fils tant de jours ces derniers temps pour préparer cette compète-là et aussi là, c'est pas pour rien. Se rappeler ces petits mots et du coup qui font monter aussi, c'est un peu une sorte de colère, mais qui font nourrir ça et du coup, et surtout sur la chambre d'appel. Puis après, par contre, je vais me redétendre, hein, sinon tu dors pas de la nuit. Et puis après, en chambre d'appel, pareil, faire remonter sa agressivité par des exercices un petit peu plus intensifs de respiration et puis voilà, quelques visualisations. Je vais faire monter un peu au dernier moment et savoir sortir tout seul.
Ok. Ouais, les visualisations, c'est sur le combat, c'est l'envie, c'est... Il y a des phrases qui reviennent, je sais pas, souvent, tout le temps. T'as parlé un peu de ton fils, les sacrifices.
Une des phrases qui est importante et qui va être surprenante, peut-être, c'est la première fois que je le dévoile, d'ailleurs. Faut être posé, serein et appliqué. C'est ce qu'on me dit souvent. Et c'est les trois piliers que j'ai besoin pour performer. Bizarrement, parce qu'il faut l'agressivité. Souvent, on va penser à de l'agressivité. On a parlé de la santé. J'avais lu une étude. C'était, je crois, des souris qui devaient traverser un câble et qui étaient, si elles étaient à fond sous caféine, elles n'arrivaient pas à traverser. Parce que du coup, elles n'arrivaient pas à être précises. Par contre, si elles étaient, je sais plus, c'était à l'inverse, sans caféine, mais quelque chose qui les apaisait plus, elles arrivaient à faire l'exercice et arrivaient au bout. Pour moi, ça a été vachement parlant. Pour le combat, c'est pareil. Si t'es trop haut en agressivité, t'arrives plus à être concentré. C'est bizarre parce que je te dis ça alors qu'en même temps, quand tu vois mes combats, tout le monde voit le côté que agressif.
Mais en fait,
il y a une côté apaisé en même temps.
Mais je me disais.
Mais je suis obligé d'y aller dans l'agressivité. Enfin, c'est naturel. Enfin, c'est ma façon de combattre. Tu vas pas me piquer mon steak, hein, je l'avais la médaille. Donc, ça, c'est naturel, ça va sortir. J'ai fait les sacrifices, tout ça. J'ai perdu mon poids comme un galérien. J'ai parti en stage à l'étranger. Je fais des sacrifices. Je fais pas des baptêmes, des mariages pour ça. Donc, c'est ce qui est dur des fois. Donc, je sais pourquoi j'y vais. Et mon judo a été construit là-dessus. Mais par contre, j'essaye de m'apaiser au maximum pour les combats.
Ouais, ok. Et c'est pas trop dur de redescendre après une compète? Ou ça se fait naturellement?
Oh bah si. Enfin voilà, moi je sais maintenant que la nuit après une compète, tu vas pas dormir avant 2h du mat et tu vas être réveillé à 5h, quoi. C'est ce qui est dur par exemple pour repartir pour les équipes, parce qu'en fait t'as un tel pic d'adrénaline et de plein d'hormones qui vont sortir et d'excitation, pour redescendre c'est compliqué, quoi. Qu'elle soit bien passée ou mal passée, hein. Des fois même juste un premier tour t'es fracassé le lendemain parce qu'il y a toute la concentration avant.
Combien de combats t'as gagné avant même de monter sur le tatami et que tu les as gagnés dans la chambre d'appel ou sur le tatami d'entraînement?
Par rapport à l'intimidation ou par rapport à autre chose?
N'importe quoi.
Ouais, je sais pas, je pense
qu'il y a tous les styles, tu vois.
Ouais, il y a pas mal.
Toi, t'as cité l'intimidation. Tout à l'heure, tu citais à Tokyo que sans faire exprès, t'étais allé courir. Tu vois, c'est pas de l'intimidation, ça peut être une fausse maladresse, tu vois.
Il y a sur ça, il y a aussi des choses des combats sur être bien échauffé. Je suis quelqu'un qui m'échauffe énormément et j'en ai pris plus d'un à la gorge parce qu'ils étaient mal échauffés. Ou je les ai gagnés aussi sur les combats, je les ai gagnés sur de l'analyse vidéo aussi. Bah ouais, un mec, un premier tour, effectivement, c'est dur. Hein. Un premier tour à Bercy, ça m'est déjà arrivé de commencer l'échauffement à 6h45, je crois, ou 6h30. C'est horrible. Pour une journée que tu sais qu'elle va se finir à 18h, ça fait long, tu vois. Et bah voilà, prendre le mec à froid, désolé mec, mais c'est une faute professionnelle, quoi. Tu t'entraînes tous les jours, tu t'entraînes fort tous les jours, mais tu fais pas l'effort à l'échauffement le jour J, c'est un peu con, quoi. Et ça, j'en ai déjà cueilli plein, mais aussi sur de l'analyse vidéo, sur de la précision, sur ou sur l'endurance de concentration, c'est pas que sur le judo. J'y gagne rarement que sur le judo.
Ouais. Mais écoute, c'est bien dit, toutes tes petites stratégies. Allez, je switch complètement. Mais on va quand même essayer de terminer sur une note positive juste après, mais il y a un sujet sur lequel j'avais absolument envie de t'entendre, parce que quand je l'ai appris, ça m'a fait gamberger sur ma situation de papa aussi. Comme je te disais, je suis passé un peu par le monde du rugby. C'est que début 2021, t'as un combat à Doha, il me semble. Tu emmènes ton adversaire au sol, mais tu tombes mal sur la tête. Et là, les images, j'ai mal pour toi, en fait. En les regardant, t'arrives pas à te relever. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ?
Je suis en dehors de mon corps. Je suis incapable de me relever. Je me regarde à essayer de me relever, à m'écrouler comme un KO en boxe. Une fois, deux fois, trois fois.
Ouais, t'arrives pas.
Et je suis complètement en déséquilibre. Complet.
On dirait un mec bourré qui est incapable de se relever
exactement,
presque.
C'est exactement ça. Limite Bambi qui essaie de se mettre debout. Quoi. C'est vrai, ouais. Mais un moment où je me mets. Si, j'y arrive, j'écarte les jambes comme pas possible. Et bam, je me casse la gueule. Ça fait flipper, mais au début, je veux quand même un mec déterminé. Il y a l'arbitre qui arrive et qui je lui donne. Je sais que le protocole commotion va te demander la date, je lui donne 7 fois de suite la date. Parce que le mec dit non, je veux recombattre, c'est l'année des jeux, j'ai besoin de ce combat-là pour me rassurer, machin, pour préparer les jeux. Et en fait, heureusement, le médecin m'arrête. Non, j'ai mis 3 heures à me remettre debout. Je suis rentré ici.
À quel moment tu sais ce que t'as ?
Je le sais quand je me réveille plus ou moins, je suis pas inconscient, mais je suis dans le gaz complet. Peut-être 2 heures après, je comprends vraiment ce qui m'est arrivé. Mais j'ai une commotion et je me souviens encore ma femme qui m'envoie un message qui me dit. Ah ça va, t'as fait qu'une commotion, parce que la caméra a coupé à ce moment-là pour pas tout montrer en direct. Et donc t'as fait qu'une commotion, j'ai cru que tu t'étais blessé. Et ça c'est une phrase qui m'a marqué, parce qu'en fait c'est la pire des blessures que j'ai eues depuis le début de ma carrière, qu'on se rendait pas compte avant, et avant de le vivre on se rend pas compte de ce que c'est qu'une commotion et que c'est lourd. Tu vois, j'ai à la limite la voix qui tremble en parlant de ça, parce que j'ai galéré, parce que j'ai mis 2 mois et demi, on était avant les jeux, on est à 8 mois des jeux, 7 mois et demi des jeux. À 7 mois et demi des jeux. Et je me suis réveillé pendant 2 mois et demi comme si j'étais bourré. J'ai cherché ma baguette de pain en face là et j'ai l'impression d'être bourré. Et quand tu sors de soirée, c'est marrant. Quand tu sais que c'est ton cerveau qui déconne, c'est pas cool. Quand tu sais que t'arrives pas à suivre une conversation, j'avais suivi une conversation avec mon frère là un peu plus poussé au bout de 10 jours. J'ai mis au bout de 5 minutes, je me suis retrouvé avec la mâchoire qui tombe et la tête qui bascule comme ça et à plus pouvoir suivre et à devoir dormir pendant 2 heures derrière pour récupérer de cette conversation quoi. Et ça te fait peur. Et ça te fait peur, et surtout quand j'ai eu plein de témoignages derrière, parce que j'ai essayé de prendre la parole là-dessus. Il y a eu énormément de témoignages de gens qui étaient en détresse, en errance thérapeutique à cause de ça. Des gens qui sont pas aidés parce qu'on les identifie très très mal. Et c'est vraiment quelque chose de grave parce que ça touche, il y a plein de choses. Moi, ça a touché l'oreille interne, ça avait touché ma vision, ça a touché mon humeur. Ça a été très dur pour mes proches parce que t'as des variations d'humeur énormes, t'as de l'irritabilité. T'as des angoisses aussi qui apparaissent parce que ton cerveau est fragilisé, donc il est fatigué tout le temps. Donc en fait, t'es plus sensible à ça. Et les premiers mois, ça a été très dur, très fort. Et après, tu récupères, mais certains peuvent rester bloqués comme ça, quoi. Donc ça fait peur. Malheureusement, c'est quelque chose que je veux faire bouger en France parce qu'encore, il n'y a pas longtemps, mon petit voisin est tombé au roller hockey. Il a une légère perte de connaissance, mais après, il l'a très bien expliqué avec des mots d'enfant en disant bah, « Je sais pas ce que j'ai, maman, mais... » Tout va bien, je suis pas triste, mais mon cerveau me dit de pleurer. Et il pleurait, et il pleurait. Et il était à l'hôpital, et on lui a dit, non, mais c'est bon, tout va bien. On l'a gardé en observation 5 heures, et le lendemain, on l'a laissé repartir. Sans leur donner de consigne. En fait, il avait fait une commotion, quoi. Et le gamin, j'ai dit, non, mais il retourne pas à l'école le lendemain, ils avaient prévu de le mettre à l'école le lendemain. Ils l'ont gardé en observation, et même une semaine après, il était, dès que j'allais arriver chez eux pour voir où il en était, il dormait, il était vautré tout le temps, quoi. Dès qu'il y avait un peu de bruit, il était épuisé, et il a mis 3 semaines et demie à s'en remettre. Et si j'avais pas été là et je l'ai orienté après vers des gens que je connaissais, mais en fait même sur un hôpital qui était un très bon hôpital parisien, on l'aurait laissé repartir comme ça sans consigne, quoi. Et du coup le gamin, ben, les parents connaissent pas, il aurait repris le sport, quoi, parce qu'on leur a même pas parlé de tout ça. Donc c'est assez triste, et il y a trop de gens qui souffrent de ça, des sportifs dans tout sport. J'ai vu des cyclistes, de la synchro, du rugby bien sûr, du foot, mais aussi dans la vie de tous les jours. Voilà un gamin, j'ai entendu des gamins qui étaient déscolarisés, qui ont été en hôpital psy à cause de ça. C'est incroyable. Et donc il faut vraiment démocratiser ça, quoi. C'est vraiment un de mes combats, quoi, parce que c'est une maladie qui fait mal.
Ça peut arriver à n'importe qui, sur des petits chocs en plus, des fois.
On voit tout le monde en trottinette là maintenant, il y en a énormément. C'est des traumas crâniens en fait, voilà. Une chute en trottinette, ça fait ça, quoi, tout simplement. Et si tu reprends un petit choc derrière, anodin, ben c'est fini, quoi. Sachant que ça touche ton oreille interne, ton équilibre, donc tu peux facilement reprendre un choc.
Toi, ça a duré 2 mois et demi, tu le dis. Pour cet enfant, ça a duré plus de 3 semaines. C'est quoi le protocole pour s'en remettre ? Si tu devais, là, effectivement, on met la casquette un peu Axel, athlète de haut niveau, bien sûr, mais aussi patient et aussi professionnel de santé. Effectivement, bah, tu es triplement légitime pour démocratiser la parole là-dessus. Tu n'es pas forcément l'expert, tu vois, commotion cérébrale, mais de ces trois casquettes-là, entre l'athlète, entre le patient et le professionnel de santé, quel est, toi, ce que tu recommanderais, effectivement, en plus d'aller voir des experts, mais tu vois, qu'est-ce qui a été utile pour toi ?
Attention, le cerveau n'en a qu'un, mettez-le au repos tout de suite, parce que c'est un deuxième choc, c'est là où c'est plus dangereux. C'est un repos, du coup, bah, pas d'écran, pas de télé, même la lecture est difficile. Pour certains, la musique, tout ça va être difficile, mais essayez de reprendre la vie tous les jours, mais se reposer au maximum et être sur des choses ben, simples, aller se balader dans la nature, choses comme ça. Ne pas reprendre de sport tout de suite. Voilà, tester son équilibre. Et moi, ce que je conseille, ce qui m'a changé, j'ai été chercher, je t'ai expliqué mon côté aller très loin dans certaines connaissances. J'ai été, grâce à des potes kinés qui étaient en promo avec moi, dans voir ce qui se passait à l'étranger. Et il y a quatre choses qui m'ont aidé. C'est travailler sur quatre piliers qui sont travailler sur le côté psy. Travailler avec quelqu'un, même si c'est nouveau. Alors nous, faire un sport de niveau, c'est plus facile. Travailler au niveau ostéo, mais quelqu'un qui s'y connaît au niveau crânien, parce qu'en fait, quand tu te chutes, en fait, ton tonus musculaire s'arrête complètement. Donc du coup, la boîte crânienne bouge énormément. Donc du coup, si tu l'as, la boîte crânienne, elle a besoin d'avoir une harmonie pour bouger comme il faut, pour que ton cerveau bouge comme il faut à l'intérieur. Donc pour qu'il cicatrise, il faut remettre en place cette boîte crânienne. Et ça, il y a quelques ostéos qui savent le travailler, donc il faut trouver le bon ostéo. Et ça travaille aussi au niveau de la rachis cervicale haut. Il faut travailler ce deuxième pilier. L'autre, c'est d'aller checker l'oreille interne avec un kiné vestibulaire, souvent. Et puis, donc, parce qu'il y a des gros trous au niveau de l'oreille interne, moi, c'était ce qui s'est passé, des gros trous. Donc, mais les symptômes peuvent être très, très variés. Hein. Ça peut être juste, tu discutes avec quelqu'un, des gens passent. En fait, tout simplement ça, c'est l'oreille interne qui va être mal à l'aise. Le mal des transports, ça vient de l'oreille interne. Donc déjà, mais on va pas penser que ça peut être dû à la commotion, ça. Et la dernière chose, c'est la vision. Aller voir un ophtalmo ou un orthoptiste. Moi, j'ai fait un travail orthoptiste parce que du coup, j'avais un nystagmus et du coup, ça peut fragiliser. En fait, ça va fragiliser un peu ton cerveau. Et donc, ce qu'il arrivait à réguler facilement le lien entre l'oreille interne, l'œil et ton cerveau, bah, en fait, là, il le fait moins bien. Donc, il va falloir rééduquer un petit peu tout ça. Bah, pour tout le monde, mais pour les commotions qui traînent, souvent, il faut aller là-dedans.
D'accord, ok. Donc, ouais, quatre piliers, tu l'as dit. Effectivement, travail psychologique, première chose. Ostéo. Oreille interne et orthoptiste ou ophtalmo.
Et surtout, pas reprise d'un repos au niveau du cerveau et pas de reprise d'intensité physique tout de suite. On va y aller progressivement par étapes. Ça, c'est ce qu'on entend plus dans les médias, mais ce début de l'aérobie tranquille sur vélo, sans choc, pour ne pas que le cerveau... C'est pas de la course à pied, parce que sinon, là, il y a déjà un choc. Si ça va mieux, on met un petit peu plus d'intensité. Si ça va mieux, on commence à mettre un petit peu de course à pied. Et après, seulement la musculation, tout ça, viennent beaucoup plus tard. Parce que la musculation, tu vas avoir même un gainage. C'est beaucoup plus dur parce que tu vas avoir une hyperpression au niveau de ton cerveau.
Ouais. Mais j'avais entendu une interview de toi où tu disais ouais, que tu n'arrivais même pas à tenir 15 secondes en gainage. Quoi.
Même à un mois et demi de ma commotion, je ne tenais pas 3 minutes de vélo d'appartement à basse intensité ou 15 secondes de gainage. Pour un sportif de niveau, ça pue. Ça fait flipper. Autant j'ai des potes qui vont me dire mais moi j'y arrive pas 15 secondes de gainage. Oui, enfin bon, moi c'est mon boulot quoi. Je sais pas combien de minutes de planche. Voilà.
Ouais. Normalement ça, on doit être capable de passer au moins 5 minutes quoi.
Ouais, ouais. Voilà.
Ok. Écoute, c'est hyper intéressant et merci de parler de ce sujet parce que je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Des fois c'est des petites alertes légères et de durer 2-3 jours et puis en fait tu vois tu peux le payer sur le long terme.
Et n'hésitez pas à vous arrêter, il vaut mieux, parce que ceux qui vont plus parler au bourrin, on va dire peut-être, bah en fait après une commotion t'es aussi plus fragile au niveau de tout, ta réactivité musculaire, ta proprioception. Donc en fait par exemple j'ai un pote qui s'est pété les croisés 10 jours après une commotion. En fait il a voulu reprendre pour une compète par équipe avec nous, mais il s'est pété les croisés. Donc en fait beaucoup vont être des... c'est aussi pour ça qu'il faut s'arrêter. Faut pas hésiter à s'arrêter parce que tout est touché. Et donc là, on a souvent les plus grosses blessures qui arrivent derrière.
Ouais, ok. En tout cas, bah, c'est bien de lever la parole dessus et de pouvoir communiquer. On t'a tout de suite dit que toi, ça reviendrait à la normale quand même.
Ah non, au début, j'étais tranquille. Au début, je pensais que j'en avais pour 15 jours, 3 semaines quand j'ai fait ma grosse en 2021. Et puis après, je me suis rendu compte que non, et j'ai eu peur. J'ai eu peur même de ne pas faire les jeux à cause de ça. Hein. C'était pas impossible. Hein. Il y avait une vraie réflexion par rapport à ça. Et puis au final, ça rentre dans l'anormal. Sauf ceux qui vont cumuler des commotions. Et là, il peut y avoir la commotion de trop. Il y en a qui restent avec des symptômes à vie. Mais sinon, en général, tu récupères. Je crois qu'on l'a récemment, on m'a dit, au bout de 2 mois, ton cerveau est déjà beaucoup mieux cicatrisé. Et au bout de 6 mois, on considère que t'as plus rien.
D'accord, ok.
Sauf comme vraiment t'en as accumulé beaucoup trop.
Ouais, ouais, bien sûr. Et je crois que c'est au, bah justement, c'est au rugby. Si t'en as 2 dans la saison, ta saison elle est terminée, je crois, automatiquement.
Je crois que c'est à 3. À 3, ils te mettent 6 mois d'arrêt.
Ok, ok.
Non, ou 3 dans l'année, ouais, je sais plus c'est quoi les chiffres. 2, tu prends 3 mois d'arrêt.
Je crois que ça a été réduit à 2. Hein.
Ouais, je crois que c'est 2, tu prends 3 mois d'arrêt. Et à 3, ils te mettent une année complète d'arrêt.
Ouais, ouais, parce que les conséquences peuvent être fortes, ouais. Mais sur le cerveau. Tu me disais rapidement là que tu avais eu une deuxième petite alerte là récemment. Comment tu l'appréhendes du coup maintenant là ? C'est quoi tes résolutions pour faire gaffe ?
C'est d'être vigilant. Le seul moyen de prévention qu'on a, c'est de renforcer le rachis cervical. Donc, il va falloir que je m'y mette. Mais en fait, il y avait aussi.
Ils sont déjà énormes.
Ouais, bah malheureusement. En fait, et j'ai compris pourquoi j'ai perdu, quand j'ai dit avant les jeux, j'ai fait que 3-4 mois de judo. Sur 1 an et demi. Donc, en fait, j'ai perdu du rachis cervical à cause de ça, en fait. La pubalgie, c'est une conséquence du, c'est un limite, c'est con, mais tout ça est une conséquence du Covid. Ce qui est ouf. J'en suis persuadé maintenant. Donc, voilà. Une des deux choses, c'est de renforcer ça. Mais c'est surtout d'être vigilant, quoi. Voilà. Je fais attention de moins travailler sur la fatigue. Et puis, je maintiens un travail de kiné vestibulaire. Et puis, voilà. Faudra vraiment être vigilant parce que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que j'ai pas envie d'avoir des soucis plus tard, quoi. Donc, c'est vrai que maintenant, ouais, il y a une vraie réflexion par rapport à tout ça.
Ben ouais, prends soin de toi,
ouais.
C'est sûr.
Ouais.
Et puis, comme tu l'as dit, on relativise beaucoup quand on donne la vie et qu'on voit plein d'enfants aussi qui se battent pour s'accrocher à la leur. Donc, il faut aussi, c'est sûr, garder ces bons souvenirs. J'avais des petites questions de la fin pour justement qu'on puisse terminer sur une bonne note et se rappeler tous les bons moments, les revisualiser. Tu vois, c'est un peu des questions très faciles, tu vas voir. Si je te demande ta salle préférée.
Ma salle préférée de compétition, Bercy, très clairement. J'adore Bercy. C'est maintenant mon deuxième jardin. Ce que j'aime bien dire, j'y ai vécu mon plus beau premier souvenir de sport en 2009 quand je fais ma première médaille au tournoi de Bercy. En fait, j'allais voir Bercy depuis que je suis gamin en bus avec mon club, et quand j'ai fait ma première médaille, un public qui te pousse et t'as des énergies de dingue, et j'adore y combattre, voilà, tout simplement.
C'est la plus grosse ambiance.
Ouais, c'est la plus grosse ambiance au monde. Et puis alors quand t'es français, encore plus, et j'ai la chance d'avoir un public français qui m'apprécie beaucoup sur mon côté combatif, comme tu me disais, quoi.
Bah ouais, bien sûr, et il est très chauve, hein, le public français quand même. Mais ouais, pour être venu quelques fois, je t'ai vu combattre, donc je
c'est
sais,
magnifique. C'est en plus, quand t'es un mec comme moi qui peut gagner au sol, ouais. T'as 20 secondes où t'as tout le public qui gueule comme un dingue, c'est sublime. Chaque passage au sol, t'as tout le public qui pousse, et c'est génial.
Ouais. En parlant de ça, c'est laquelle ta favorite au sol ?
Maintenant, j'ai ce qu'on appelle le manche de pioche. Ça fait peur à certains. C'est un étranglement. Alors, en japonais, guaku jujime. C'est un étranglement où je viens croiser mes mains au niveau du revers de l'adversaire et je l'étrangle avec ça plus mon poids de corps. Voilà.
Okay.
Je suis plutôt du côté étranglement, quoi. J'ai un peu spécialisé l'étranglement. Ça fait peur aux gens, mais je vous rassure à l'adversaire d'abandonner juste avant que ça aille pas bien.
Ouais, exactement. Et debout ?
Debout, c'est Yokoto Monage, mon spécial, à la base, donc la planche japonaise, et maintenant aussi beaucoup à Rai Makikomi, où j'ai mis pas mal de gros combats ces derniers temps là-dessus, quoi.
Ok. À l'inverse, c'est quoi la salle où t'aimes pas foutre les pieds ? Parce qu'il y a une pression, parce que, je sais pas, le confort est pas là.
Non, mais voilà, t'as des compétitions où là, c'est... Là, tu vois, je repars, comme j'ai arrêté au bout de 14 mois sans compétition, je repars sur des plus petites compétitions. C'est vrai que c'est pas évident. La première compète après les Jeux, j'étais au Portugal dans une MJC avec une salle d'échauffement sous une toile de tente. Voilà, forcément, après les Jeux, ça fait moins rêver. Quand t'as fait les Jeux, Trocadéro, et que tu reprends dans une MJC, ça fait plus bizarre. C'est plus ces ambiances de salle que j'aime pas, quoi.
Tu le dis avec beaucoup d'humilité et de sourire, donc ça fait plaisir. Là où tu as certains auraient traîné des pieds, ça fait partie du sport aussi.
C'est partie du sport, il faut... et c'est une leçon de vie. Tu repars à zéro tout le temps, quoi.
L'adversaire que tu rêverais d'avoir en finale des Jeux, parce que tu sais que ça va bien se passer, ou parce que...
Non, je peux pas dire parce que je sais que ça va bien se passer, tu peux jamais savoir c'est un adversaire. Ah, pourquoi pas Bobonov, l'Ouzbek, on s'est jamais pris, et numéro 1 mondial et champion du monde 2022. J'aime bien son style et on s'est jamais pris, ça ferait un beau combat, je pense.
Ok. Ah ouais, donc tu vas chercher le défi, quoi.
Ouais, ouais, carrément.
Et y a un adversaire contre qui t'as jamais perdu?
Contre qui j'ai jamais perdu? Oui, bah oui, il y a certains, oui, quand même.
Mais je veux dire, au même niveau.
Ouais, au même niveau, je sais pas. Il y en avait un que je battais beaucoup et qui s'est rattrapé derrière. Charles Adjuni, ancien champion du monde. Bah, je menais 4-0 sur lui, on est à 4-4, putain. Il m'a rattrapé.
Bon. Bah, celui-là, c'est pour les demi.
Ouais, mais il est monté de catégorie, donc c'est bon.
Ok, tranquille.
Ouais, donc je l'ai plus.
Ok. Ouais. Eh ben écoute, c'était pas mal. Et dernière petite question, qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist pour se motiver soit le matin pour aller à l'INSEP, soit dans la chambre d'appel?
Alors bizarrement en chambre d'appel, j'ai beaucoup de musique cool. Du Raoul Midon, du jazz, de la soul, des choses comme ça, des choses très apaisantes, très calmes. Je suis déjà un mec assez excité, j'ai pas besoin de ça. Après, j'aime bien assez généraliste, je déteste le rap, mais par contre, je vais aimer un petit peu tout. Mais voilà, un peu tout ce qui s'ambiance aussi pour le quotidien et tous les jours. Je peux mettre des playlists années 80, 90, 2000. Je vais aimer. Et,
je suis sûr qu'il y a des démons de minuit sur le.
Voilà, ça peut aider de temps en temps, ou en soirée avec les potes, c'est cool.
Petit Johnny.
Parce que là j'ai été sérieux, mais je vais faire la fête en soirée, donc je vous rassure, je peux être plus rigolo que ce que je fais sur un podcast.
Mais déjà on a quand même beaucoup rigolé, donc c'est pas mal. La dernière question que je pose à tous les invités, pareil là, on peut pas y manquer, c'est comme un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro, c'est de savoir quels sont les deux athlètes, j'aime bien demander un homme et une femme, parce que j'aime bien avoir un podcast parfaitement mixte, que tu me recommandes d'aller voir justement, soit parce que leur histoire t'a inspiré, soit c'est parce que c'est des athlètes que tu connais pas assez que t'aimerais bien découvrir, ou au contraire parce que c'est des très bons amis et que tu sais qu'on passerait aussi un bon moment et qu'on pourrait bien rigoler ensemble.
Ah, c'est dur parce qu'en fait j'y avais réfléchi, que j'arrive pas à trouver, il y a trop de gens qui m'inspirent et que j'ai envie de... En fait, je considère que tu peux apprendre de tout le monde. Dans les sportifs, il y en a trop, on se côtoie à INSEP. Il y a un Kevin Mayer qui m'intéresse, dans son côté perfectionniste, aller très loin, pourquoi pas. Mais pourquoi pas aussi sortir du sport et aller voir, je sais que tu commences à y voir dans d'autres domaines d'excellence, comme un Jean Sulpice, qui est un chef étoilé très sportif, et donc c'est aussi de l'excellence qu'ils vont faire, et c'est quelqu'un que j'ai rencontré et que j'apprécie beaucoup, et qui est assez impressionnant, sa cuisine est incroyable.
Et il est où son restaurant?
À Annecy. Ouais. Et donc il est assez dingue, bah, je crois que t'as fait parapente.
Mais j'ai failli aller chez lui.
Ah ouais,
ouais, j'ai failli aller chez lui.
Et le resto est dingue, c'est un vrai voyage, c'est quelque chose que je découvre de plus en plus, la gastronomie, et c'est cool. Et puis donc pourquoi pas aller voir avec lui. Et sinon chez les femmes, il y a quelqu'un que j'aime bien, qui a pris des fonctions au niveau du CNO, c'est Astrid Guyard, qui a une réflexion très globale, qui aura en plus un recul différent et qui pourra t'apporter des choses sympas, et qui a réussi sa reconversion aussi.
Ouais, bah écoute, c'est vrai qu'elle est passée il y a plus de 2 ans maintenant sur le podcast et j'ai envie de savoir ce qu'elle fait depuis. Donc
elle vient d'être maman.
Je t'utiliserai pour, je sais, ouais, je sais en plus que j'avais vu et je sais que c'est une passionnée d'astronomie et de l'espace aussi. Donc
je savais pas qu'elle était passée avec toi. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup aussi et qui a une vision comme moi très globale du sport de haut niveau et qui aime bien aller chercher l'excellence dans plein de domaines.
Ça t'intéresse toi le CNOSF justement pour plus tard ou...
J'y réfléchis. J'ai envie de m'engager. Je suis représentant du judo à la commission des athlètes du CNO et j'ai envie de m'investir justement pour faire changer certaines choses que je trouve pas cool dans le haut niveau, d'autres choses qui sont cool mais comme la reconversion, comme le suivi socio-pro, comme le côté médical sur les commissions. Donc oui, je m'engage dans ces choses là je suis aussi à la commission médicale du judo et j'essaie de m'engager dans des combats comme ça pour faire avancer les choses, bah, pour les plus jeunes quoi, tout simplement, pour qu'ils aient pas à galérer comme j'ai pu galérer à certains moments.
Bah écoute, c'est bien dit et on restera sur ces mots très sages et transmis d'espoir. Et puis, j'ai qu'un seul truc à dire maintenant, c'est merci infiniment. J'ai passé un excellent moment, j'ai bien rigolé en plus. Fallait que je reste sérieux parce que je mène quand même, c'est le boulot quand même. Mais je suis vraiment ravi d'avoir fait ce moment avec toi. Déjà parce que ton parcours, comme je te l'ai dit, m'a beaucoup inspiré, enrichi. Là, je pense qu'on a fait... On a fait x2 sur ce que je pouvais attendre, et aussi parce que tu mènes des... Alors, j'ai pas envie de dire des combats parce que ça fait beaucoup, enfin tu portes des messages qui sont je pense importants et qui sont importants de faire passer.
Ouais, j'ai un côté soignant où j'ai envie d'aider les autres, hein, donc tout simplement, donc si mes erreurs peuvent servir aux autres, et ben tant mieux. Et voilà, tout simplement. Merci infiniment, et profiter du sport, tous ceux qui font du sport, c'est un merveilleux médicament et ça nous apporte tellement de choses que amusez-vous dans le sport. On a oublié de le dire, mais le plus important c'est le plaisir et le kiff dans le sport. Merci à toi, j'ai adoré ce moment-là aussi.
Bon bah cool, merci beaucoup. Et puis à tous les extraterriens, allez suivre Axel sur Instagram ou sur Facebook, peu importe, lui envoyer un petit message d'amour, ça fait toujours plaisir. Du soutien à fond pendant les prochaines compétitions qui vont arriver. Et puis voilà, s'il cherche un bon cabinet de kiné du côté de Villiers pour faire vos petites recherches, vous trouverez. On n'a pas le droit de faire de pub, donc je vais pas aller plus loin que ça. Et puis voilà, merci infiniment, c'était super.
Merci à toi.
Et je te dis à très bientôt.
C'était trop cool. Une bonne première expérience de podcast.
Ah bah tu vois. Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.